Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. La contestation contre la réforme des retraites prend un nouveau tournant avec l'annonce de grèves reconductibles à la SNCF pendant la période des vacances scolaires de février. La CGT Cheminots et Sudrail appellent aussi à de fortes actions dès le 31 janvier, date de la prochaine manifestation syndicale. Le bras de fer est donc bien engagé avec le gouvernement. On reviendra aussi sur un autre sujet, l'affaire de ce père de famille qui s'est vengé contre celui qui l'accuse d'avoir agressé sa petite fille à Rouen. Une peine aménageable a été requise contre cet homme qui s'était fait justice lui-même. D'autres complices ont été également condamnés. On rejoindra notre envoyé spécial Noémie Schulz sur place. Mais tout de suite, il est 17h, c'est l'heure du rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
La CGT Cheminots et Sudrail proposent une grève reconductible dès la mi-février à la SNCF. Dans un tract commun, les deux syndicats appellent à deux jours consécutifs de grève les 7 et 8 février, deux journées en plus de celle du mardi 31 janvier. Les syndicats souhaitent ainsi élever le rapport de force avec le gouvernement contre la réforme des retraites. Elisabeth Borne, vivement interpellée à l'Assemblée nationale, la Première ministre a tenté d'éteindre la polémique sur l'impact de la réforme des retraites sur les femmes. Elle assure que la réforme va réduire les inégalités entre les femmes et les hommes, alors que son ministre Franck Riester avait reconnu qu'elle serait un peu pénalisée par le report de l'âge légal. 18 mois de prison, dont 6 à 9 mois assortis d'un sursis probatoire, ont été requis contre un père de famille à Roanne. En octobre dernier, il avait tabassé avec 3 amis l'agresseur présumé de sa fille de 6 ans. Elle avait été agressée sexuellement la veille dans sa chambre par un adolescent. Et puis la France a ramené 15 femmes et 32 enfants de camps de prisonniers djihadistes en Syrie. Les mineurs ont été remis au service chargé de l'aide à l'enfance et feront l'objet d'un suivi médico-social. Les femmes, elles, ont été remises aux autorités judiciaires compétentes.
Merci beaucoup Mathieu Devez pour ce rappel des titres de l'actualité. On est avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir Louis.
Bonsoir Laurence.
Avec Nathan Devers, agrégé de philosophie. Bonsoir Nathan.
Bonsoir Laurence.
Et Éric Revelle, journaliste. Bonsoir.
Bonsoir Laurence.
Vous allez bien?
Oui,
on va parler de la SNCF, évidemment, volet grève, évidemment, avec cet appel à une grève reconductible à partir de la mi-février. Ça veut dire que les vacances scolaires seront légèrement impactées. Mais d'abord, on va s'intéresser à ce qui s'est passé Gare de l'Est. Depuis ce matin, plus aucun train ne peut circuler à la suite d'un incendie volontaire sur une quarantaine de câbles électriques dans un poste d'aiguillage en Seine-et-Marne. Tout est encore un petit peu mystérieux, on a du mal à comprendre ce qui s'est passé. En tout cas, il n'y a plus aucun trafic. On rejoint sur place notre envoyé spécial, Jeanne Cancard, avec Fabrice Esner. Bonsoir Jeanne, qu'est-ce qui s'est passé exactement Gare de l'Est ?
Eh bien Laurence, il est aux alentours d'1h du matin, cette nuit, en Seine-et-Marne d'abord, qu'un incendie volontaire a été déclenché. Deux boîtiers électriques ont été détruits avec à l'intérieur une cinquantaine de câbles. Alors la conséquence, elle est là, elle est dans cette gare SNCF. Aucun train n'arrive ni ne sort. C'est aux alentours ensuite de 4h30 du matin que les agents qui ont pris leur poste à ce moment-là, eh bien, se sont rendus compte de l'incendie. Clément Beaune, le ministre des Transports, s'est rendu sur place ici, Gare de l'Est, en fin de matinée. Il a déclaré que c'était un acte volontaire, un acte odieux. Il demande des sanctions fortes. La SNCF Réseau a d'ailleurs d'ores et déjà porté plainte pendant que l'enquête, elle se poursuit pour tenter de déterminer à la fois les origines de cet incendie et puis aussi tenter de retrouver, d'identifier le ou les auteurs de cet acte. En attendant, eh bien, les agents SNCF font leur maximum pour tenter de rétablir le plus rapidement possible le trafic. Mais pour l'heure, il est toujours impossible de dire précisément quand.
Et avec quelles conséquences sur le trafic, vous le disiez, Jeanne ?
Eh bien, Laurence, on va vous le montrer tout simplement en image. Regardez, c'est quand même assez rare de voir une gare de l'Est. On voit quelques personnes ici, mais une gare de l'Est assez quasiment déserte, puisque soit les personnes, eh bien, elles ont été prévenues en amont par SMS, par email ou tout simplement par la télévision. Ils ont suivi qu'ils ne pouvaient pas prendre de train ici pour rentrer chez eux. Alors, il y en a certains qui ont un peu plus de chance, puisque tous ceux qui se rendent à Metz ou à Strasbourg, ils peuvent aller Gare du Nord gratuitement, sans changer leur billet. Ils peuvent aller prendre un train pour rentrer chez eux dans l'Est.
Merci beaucoup, Jeanne Cancard, avec Fabrice Elsner. Est-ce qu'on a des pistes, peut-être plus de Ragnel, vous avez des pistes sur ce qui s'est passé, Gare de l'Est ?
Alors déjà, on sait que l'incendie est volontaire. En tout cas, c'est ce qu'a affirmé le ministre. Bon, il y a une enquête qui a été ouverte. Donc l'enquête confirmera ou ne confirmera pas ce que dit le ministre. Mais je pense que s'il s'avance comme ça, c'est qu'il a quand même des éléments probants pour pouvoir le dire et l'affirmer. Ensuite, ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas de traces d'effraction à partir de l'endroit qui permettait d'accéder aux deux bornes qui contenaient sous une dalle donc les 48 câbles qui ont été détruits. On sait également qu'il n'y a pas de garantie de reprise du trafic à l'enquête. Ça intervient aussi dans un contexte de grève de mouvements sociaux.
Vous faites un lien entre ça pourrait être du sabotage.
Pour l'instant, dans la mesure où c'est volontaire et que ça a paralysé tout le trafic, les personnes qui ont fait ça déjà savaient très bien ce qu'elles faisaient, se trouvaient les câbles. Manifestement, il y avait un accès qui n'était pas simple du tout. Il y avait une grille à ouvrir, donc la grille a été ouverte avec une clé. Et ensuite, il y avait une dalle à soulever. Enfin, il fallait vraiment bien connaître les lieux. Donc, vraisemblablement, ce sont des gens qui ont déjà travaillé ou qui travaillent sur ce type d'installation, donc qui pourraient appartenir en tout cas à la SNCF. Donc l'enquête le déterminera.
Point presse de la SNCF à 18h, Gare de l'Est.
Cette situation. Et donc ça intervient quand même dans un contexte de mobilisation sociale où la CGT Cheminots vient d'appeler justement à des nouvelles grèves reconductibles pendant le mois de février, notamment le 7 et 8 février prochain. Et la dernière chose, c'est qu'il n'y aura pas de train a priori demain matin non plus.
Ah bon, d'accord, à la Gare de l'Est toujours.
Non.
Alors, Eric Revel, vous achetez la thèse de Louis ou pas ?
Écoutez, moi je suis un garçon prudent, Bon, mais je crois qu'il y a déjà eu des actes de sabotage par le passé, si ma mémoire est bonne, dans une armoire électrique, si je me souviens bien, dans une gare parisienne. Bon. Ce qui est sûr, c'est que ça intervient le jour, vous l'avez rappelé Laurence, où Sudrail et la CGT décident de perturber le trafic.
Mais justement, c'est gros comme une maison dans ces cas-là.
Voilà. Donc, on se dit, pour perturber le trafic, il n'y a pas besoin de saboter du matériel. Non. Il suffit de déposer des préavis de grève. Ouais. Bon, c'est ce qui va se passer sans doute, puisque la grève sera reconductible, y compris pendant les vacances scolaires. Donc, moi, je vais être prudent. Ce que je note quand même dans les explications de Louis, c'est que, visiblement, il n'y a pas d'effraction. Donc, il y avait un portail qui a été ouvert avec une clé. Il y a des trappes qui ont été ouvertes avec, alors, peut-être des clés universelles. Bon, mais tout ça, il faut avoir ce matériel-là. Donc c'est pas les trappes qui ont été enfoncées pour y mettre le feu, c'est des choses qui ont été méthodiquement, visiblement, mises en place. Donc je n'en sais rien, mais ce qui est sûr, c'est que pensez aux gens qui prennent leur train pour aller en banlieue ou pour aller à Strasbourg ou pour aller à Metz, ça s'ajoute aux galères précédentes et continuelles avec une reprise du trafic. Vous l'avez dit, peut-être pas demain matin.
Hein, vraisemblablement.
Voilà, donc c'est une énorme perturbation, parce que Gare de l'Est, bon, évidemment, c'est une banalité, mais c'est une des principales gares parisiennes.
Bien sûr.
Nathan Devers, après, il y a ce qui se passe à Gare de l'Est, on va y revenir tout à l'heure, mais sur le fait que la CGT Cheminots et Sudrail lancent une grève reconductible à partir des 7 et 8 février, c'est-à-dire pile au début de la première vague des vacances scolaires.
Écoutez, il me semble que la grève, son principe, c'est de faire un blocage, blocage qui n'implique pas de détérioration matérielle comme des sabotages éventuels dans une gare, et qu'à partir de là, une grève, c'est un rapport de force qui est évidemment pénible, qui est évidemment difficile pour les gens que ça bloque, c'est évident, mais c'est ce qui permet en fait d'instaurer tous les droits sociaux, les trois quarts des droits sociaux que nous avons aujourd'hui en France, et dont nous bénéficions tous, que nous soyons pour ou contre les grèves, ont été acquis par des grèves. Et je remarque, moi, ça me fait toujours rire quand il y a des grèves. Quel que soit l'instant où les gens font grève, il y a toujours la même rhétorique anti-grève, disant que c'est jamais le bon moment. Si on fait grève et que ça paralyse des travailleurs, on dit mais regardez les travailleurs qui ne peuvent pas aller travailler. Si on le fait pendant les vacances, eh bien on dit regardez les pauvres personnes qui veulent partir en vacances, qui ne peuvent pas partir en vacances. Évidemment, je ne nie pas une gêne, un blocage, c'est le principe. Mais si vous voulez, si ce n'est jamais le moment, alors quel est l'instant pour faire avancer les droits sociaux, puisque cet instant-là n'est pas prévu dans le calendrier politique classique.
D'accord. Louis Dragnel.
J'ai une toute petite réponse à apporter à Nathan Devers. En fait, c'est toujours et jamais le bon moment. Déjà, c'est un droit constitutionnel, donc je pense qu'autour de ce plateau, personne ne le remet en question. En revanche, ce qui est pointé du doigt, c'est le fait que dans certains secteurs d'activité, je pense à l'énergie, je pense aux cheminots, vous pouvez être une poignée de personnes et vous avez un pouvoir considérable qui a un impact sur la vie de centaines de milliers de personnes, voire de millions de personnes qui, elles, n'ont pas forcément demandé à faire grève. Moi, que des gens protestent contre un employeur parce qu'ils ne sont pas contents, qu'ils protestent contre l'État, qu'ils protestent contre je sais pas qui, ils font ce qu'ils veulent. En revanche, ce qui est vraiment préoccupant et gênant, c'est cette capacité à bloquer tout un pays
pays qui n'est pas forcément en soutien à cette grève. Et donc les principales personnes impactées ne sont pas le gouvernement, ne sont pas les dirigeants de la SNCF ce soir. Non mais ce sont les usagers de la SNCF, ce sont les Français, et parfois il y a même des personnes étrangères qui prennent le train. Je pense à l'Est, donc il y a sans doute beaucoup d'Allemands. Enfin bref.
Vous aurez l'occasion de le dire tout à l'heure à Fabien Villedieu de Sudrail. A priori, Nathan Dever n'est pas de Sudrail.
Mais ce sont des gens en fait qui n'ont rien demandé à personne, qui parfois ne partagent pas ces revendications.
Bon, allez, un corrigement, puis on parle des femmes ensuite.
Je suis pas tout à fait d'accord avec vous parce que ce que vous dites c'est vrai, notamment quand il y a des grèves qui ont des intérêts corporatistes. Qu'une profession bloque tout un pays pour défendre sa profession, les conditions de travail dans telle entreprise, etc. Et même là, on pourrait comprendre, se dire qu'il ne faut pas mettre les travailleurs en concurrence les uns par rapport aux autres. Mais là, quand même, les revendications dans le contexte de ces luttes sociales sont universelles. Elle concerne même les individus qui se plaignent des grèves. Le travailleur qui peut pas aller travailler, qui va faire 20 minutes de plus de transport le matin pour aller dans son bureau le matin, eh bien, c'est peut-être 20 minutes qu'il perd, mais l'enjeu, c'est qu'il gagne 2 ans de liberté après.
Très court, vous avez quand même remarqué une chose, c'est que...
Vous me faites toujours très peur quand vous dites très
vraiment,
court.
Très
en général, c'est parti pour 10 minutes.
Je vais faire très long, Laurence. La majeure partie des gens aujourd'hui qui sont en grève, c'est le secteur public, et vous remarquerez quand même que le secteur privé est très peu en grève, alors que le droit de grève existe également dans le secteur privé.
Et c'est un des
privé.
Enjeux, évidemment, des prochains
Absolument.
Jours. Est-ce que le secteur privé va rentrer dans la danse des grèves? On va reprendre, si vous voulez, la réforme des retraites, parce qu'il y a une question qui concerne beaucoup les femmes, et on va l'évoquer avec vous. C'est est-ce que les mères de famille seront plus impactées que les autres par la réforme? La réponse est oui. A priori, il y a une étude d'impact demandée par le gouvernement qui montre qu'il y aura ce relèvement de l'âge de départ va provoquer 7 mois de travail en plus pour les femmes en moyenne, contre 5 mois pour les hommes. C'est même encore pire pour celles qui sont nées dans les années 80 parce qu'elles partiront 8 mois plus tard contre 4 mois pour les hommes. C'est-à-dire le décalage entre hommes et femmes se creuse, mais surtout pour les mères de famille parce que les trimestres de grossesse étaient jusqu'à présent comptabilisés. Là, ce report de l'âge légal gomme tout cela. On va écouter la réponse d'Elisabeth Borne, pourtant féministe de la première heure, qui tente de montrer que non, les femmes ne sont pas les grandes perdantes de sa réforme. Écoutez-la.
Au contraire, nous réduisons les inégalités inacceptables entre les femmes et les hommes au moment de la retraite. Les femmes seront les premières bénéficiaires de la revalorisation des petites pensions. Elles sont aujourd'hui plus nombreuses à avoir cotisé avec des revenus modestes. Et grâce à la revalorisation de la retraite minimale, près d'un tiers d'entre elles vont voir leurs pensions augmenter. Pour les retraités actuels, notre projet bénéficie, là encore, davantage aux femmes. L'augmentation moyenne des petites pensions sera 2 fois plus élevée pour elles que pour les hommes.
Alors, ok, Madame la Première Ministre, mais on va quand même essayer de comprendre ce qui se passe pour les mères de famille, Eric Revel. Elles sont les perdantes de la réforme.
Oui, parce qu'en fait, la Première Ministre répond à côté de la plaque.
Mais oui,
si
elle
je peux
répond
me permettre.
Congé parental et petite pension.
Répond,
ça n'a rien à voir.
De trimestres en plus ou au moins comptabilisés pour les femmes, notamment celles qui ont eu des enfants, donc. Et elle répond, mais en fait, les plus bas salaires et les plus petites retraites sont davantage féminines que masculines. Ce qui est une évidence, puisqu'il y a un écart de salaire historique. Alors, moi, je trouve, oui, je suis sympathique quand je dis qu'elle répond à côté de la plaque. Je pense qu'elle fait une réponse qui aurait dû soulever peut-être un tollé du côté de l'opposition, parce que...
Je pense que si c'était un homme qui avait fait cette réponse, tout le monde le clouait au pilori.
Peut-être, mais vous voyez, en fait, ça part d'une cacophonie gouvernementale avec Franck Riester qui dit oui, en fait, les femmes vont quand même être victimes, victimes.
On avait toutes bien compris ce qui allait se passer.
Bien sûr. Mais... Ce qui est sidérant, je trouve, et qui remonte pas finalement la croyance qu'on peut avoir dans la parole politique, c'est que la Première ministre, avec tout le respect qu'on doit à sa fonction, répond complètement à côté du sujet. Et je vais vous dire même, c'est même pire que ça, parce qu'en réalité, quand elle dit une évidence qui est importante, qui est finalement le décalage entre le salaire des femmes en moyenne et le salaire des hommes, donc voilà pourquoi pourquoi les femmes ont des plus petites pensions, elle aurait dû, à mon avis, rebondir sur ce sujet. Mais le problème, c'est que le niveau du salaire des femmes, au-delà du fait que ça doit être que ça doit maintenant rentrer complètement dans les mœurs industrielles et économiques de ce pays, c'est que c'est l'une des revendications, notamment des syndicats, puisque les syndicats disent, écoutez, il y a une autre solution, Je dis pas qu'elle est bonne, parce que ça pose d'autres problèmes aux entreprises, mais il y a une autre solution, c'est que si vous essayez maintenant à marche forcée d'aligner le salaire des femmes sur celui des hommes, vous aurez plus de cotisations du côté des salaires des femmes, et donc c'est une des solutions au trou du système des retraites.
Mais expliquez-moi quelque chose, Eric. Pourquoi est-ce que normalement pour une grossesse, c'est combien de trimestres? Quelques trimestres
Alors, je crois que c'est... Pour un enfant, trois. Je crois que c'est trois.
Donc, trois. Donc, pourquoi c'est gommé par la réforme? Pourquoi ces trimestres-là, qui étaient engrangés par les femmes, sont effacés par la réforme? Parce que le report de l'âge légal fait que, voilà, de toute façon, ils sont gommés?
Alors, ils ne sont pas gommés, mais comme vous avez un décalage de 2 ans, en fait, ils sont un peu étirés dans la carrière. Enfin, je ne sais pas si on peut employer ce mot-là. C'est-à-dire, enfin, Franck Riester a raison. C'est-à-dire que ça impacte, il a dit un peu. C'est pas cette réforme n'est pas plus intransigeante pour les femmes qu'elle ne l'est pour les hommes. Mais en réalité, ce gain qui est un gain social.
Non, mais l'avantage qu'avaient les mères de famille n'existe plus. Voilà, c'est tout.
Je ne sais pas s'il est gommé tant. Je ne pense pas qu'il est gommé tant.
Alors, Louis Dragnel, peut-être après Nathan.
Pas le détail en tête.
C'est un vrai sujet de société.
Oui, bien sûr.
Premier élément, je suis entièrement d'accord avec Éric Revel. Elisabeth Borne parle d'un sujet qui n'a rien à voir. Donc, la revalorisation des petites pensions. Et puis, dire que ça bénéficie d'abord aux femmes, ça veut dire qu'en fait, il y avait une
inégalité.
On peut même aller creuser plus profondément sur ce sujet-là. Ça veut dire que vraiment, il y avait un problème d'égalité salariale pour toutes ces femmes qui aujourd'hui sont à la retraite. Pourquoi est-ce qu'il y a plus de femmes qui vont bénéficier des petites pensions que les hommes? Parce que, évidemment, les femmes soit travaillaient moins, soit étaient moins bien payées. Et donc, je n'aurais pas du tout utilisé cet argument si j'avais été Elisabeth Borne. Le deuxième sujet, c'est que, en fait, là, pour le coup, c'est un vrai sujet de société. On vient de voir que dans cette réforme des retraites, il y avait un impensé total. C'était la politique de natalité, la politique familiale. En 1960, il y avait 4 cotisants pour un retraité. Aujourd'hui, on est à 1,7 cotisants pour un retraité, ce qui explique en partie la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et donc, ce que je trouve complètement paradoxal, c'est que le gouvernement devrait limite dire à toutes les femmes qui ont eu des enfants, mais ça compte double ou ça compte triple. À la fois, en fait, tout l'enjeu derrière ça, c'est pas uniquement de savoir quel est le montant de la petite cotisation à la fin du mois. C'est beaucoup plus important en termes d'investissement stratégique, si on peut parler d'enfants comme des futurs cotisants.
Oui, comme d'investissement
mais c'est comme ça que c'est comme ça qu'on calcule en finances publiques. C'est-à-dire que avoir un enfant de plus par femme, clairement, ça résout à moyen et à long terme le problème du déficit des retraites. Et c'est pour ça que je ne comprends absolument pas à la fois la non-décision du gouvernement d'aller beaucoup plus loin là-dessus. Ça valoriserait le travail des femmes, ça valoriserait les moments où elles s'arrêtent parce qu'elles sont enceintes, parce qu'elles accouchent.
Oui, et ça valoriserait aussi la reprise du travail. Accessoirement, toutes ne prennent pas de congé parental.
Absolument.
Il y en a très peu, parce que la plupart doivent continuer à bosser, évidemment.
Et accessoirement, ce qui n'est pas accessoirement, mais pour le pays, c'est vital, c'est capital. Et donc, moi, je trouve que c'est assez injuste de la part du gouvernement de ne pas valoriser davantage les femmes.
Et c'est surprenant de la part d'une femme première ministre.
Et c'est moi un homme qui vous le dit, chère Laurence.
Oui, et après Nathan.
Pardon,
j'ai pas tout compris.
Alors, si je comprends bien les choses, et la réponse de Franck Riester, en fait, vous conservez vos trimestres, parce que vous avez eu des enfants. Mm-hmm. C'est pas le sujet. Mais en réalité, comme le nombre d'annuités va être accru, en fait, les cotisations des femmes qui travaillent et qui ont des enfants vont être également accrues. Donc, en réalité, ces trimestres qui comptaient pleinement, j'allais dire, comme on accroît leur temps de travail avant de partir à la retraite de 2 ans, en réalité, c'est comme si ces trimestres comptaient moins. Puisque, en fait, vous allez cotiser plus longtemps. Voilà. Je sais pas si ça éclaire. Bon, voilà. Les trimestres, vous les conservez. Mais la réalité, c'est que comme pour les femmes, comme pour les hommes,
dans le total des cotisations de toute une vie.
Parfait.
Ils sont un peu moins valorisés, vos trimestres, puisque vos cotisations vont courir sur 2 ans de plus.
Sur 2 ans de plus.
Les femmes comme les hommes, si cette réforme passe.
Ne s'arrête pas pour congé maternité. Nathan Devers.
Oui, et il me semble que cette affaire montre bien que dans cette réforme des retraites, le gouvernement fait comme si on pouvait mettre tous les travailleurs sur le même plan. Et en fait, ce gouvernement ici n'a absolument aucune vision sociologique des choses. C'est-à-dire qu'il ne voit pas que quand on dit travailleur, ça ne veut rien dire. Ça ne veut pas dire plus qu'individu. Derrière ça, il y a des réalités qui sont absolument multiples. Selon la classe sociale à laquelle on appartient, on sait qu'on a une espérance de vie plus ou moins longue, par exemple, ou une espérance de vie en bonne santé plus ou moins longue. Et ça devrait déjà impacter immédiatement la manière dont on perçoit les retraites. C'est-à-dire quelqu'un qui a plus de chances de vivre presque centenaire ou quelqu'un qui a beaucoup plus de chances de contracter des maladies très graves immédiatement après, voire même pendant qu'il travaille, c'est évidemment vraiment pas le même rapport au travail. Deuxième chose, ne pas considérer la pénibilité dans ce qu'elle peut avoir, même de psychologique. C'est-à-dire qu'il y a la pénibilité physique, c'est une chose, l'usure, hein, dont il parle maintenant, c'est ce glissement sémantique et philosophique qui est quand même important, mais la pénibilité psychologique faisant que il y a presque un tiers des Français qui n'aiment pas leur métier, qui jugent que leur métier n'est pas épanouissant, et qui évidemment, à partir de là, ne se projettent pas dans leur retraite de la même manière. Et en effet, ils n'ont pas non plus considéré le fait qu'il y a des groupes sociaux. Alors là, on n'est pas sur quelque chose de socio-économique, mais la différence entre les hommes et les femmes, qui a évidemment un impact dans le monde du travail, dans la manière dont on se projette sur la retraite, cette question des trimestres. Et donc, à mon avis, leur problème, c'est qu'ils pensent par abstraction technocratique, par abstraction de rationalité économique, ils sont obsédés par ce déficit de la retraite, et ils ne voient pas comment fonctionne une société.
Mais quand même, c'est fondamentalement injuste. C'est ça qui est incroyablement
qu'est-ce qui est injuste ?
qui frappe encore une fois ça, Éric Revel, cette réforme là et ce pan de la réforme qui touche, on le disait, la natalité, c'est la clé, démographie, c'est la clé de tout le système des retraites. Oui. Pourquoi ne pas dire, alors, est-ce que le Parlement va avoir justement un rôle avec des amendements ? Est-ce qu'on va pouvoir bouger sur ce texte ?
Alors, c'est ce qui a évoqué Olivier Dussopt, le ministre du Travail, ce week-end. Bon, c'est vrai que quand on écoute Olivier Dussopt, parfois on se dit qu'il a du mal à porter avec joie et enthousiasme cette réforme. Bon, ça tient au personnage. Il a proposé plusieurs choses. Il a dit amendement sur la pénibilité, bon, peut-être. Amendement sur les carrières longues et peut-être contraintes supplémentaires pour les entreprises sur l'emploi des seniors. Mais là, c'est un dialogue de sourds. Vous avez parlé de bras de fer tout à l'heure, mais en fait, c'est un dialogue de sourds, puisque on l'entendait hier sur ce plateau, Laurence, la CGT, par exemple, qui mène la danse avec Philippe Martinez depuis le début, en fait, ce qu'elle veut, c'est le retrait pur et simple de cette réforme, en s'arc-boutant sur les deux axes principaux de cette réforme, qui sont à la fois l'accroissement des annuités, enfin l'accélération de l'accroissement des annuités, voulue par Marisol Touraine lorsqu'elle était ministre du Travail sous François Hollande, et le passage, bien sûr, de 62 à 64 ans. Maintenant, ce que j'ai trouvé désastreux, au-delà de la cacophonie dont on parlait, Franck Riester, Elisabeth Borne, c'est quand même ce qu'a dit le président du Conseil d'orientation des retraites, oui, Pierre-Louis Bras, qui dit, mais en fait, il n'y a pas le feu au lac. Alors, ok, ça va être déséquilibré un peu, mais il n'y a pas le feu au lac. Sous-entendu, vu le contexte actuel, est-ce que c'est bien le moment de... Alors, ceux qui sont pour la réforme des retraites disent c'est jamais le bon moment, etc. Mais en fait, c'est ça qui frappe. C'est pourquoi faire cette réforme. Je pense qu'il faut réformer le système des retraites. Je pense qu'il faut même aller jusqu'à s'interroger sur mettre un peu de capitalisation pour soulager ce système de répartition, puisqu'on sait que la natalité s'est effondrée et que les derniers chiffres qu'a avancé l'INSEE montrent que la natalité en France est au plus bas depuis 1946. Voilà. Donc ça veut dire quand même d'ailleurs, si les Français comprennent. Enfin, dans les sondages, ils disent que oui, il faut sans doute réformer ce système. La question que je me pose tout le temps, et je me poserai tout le temps, Laurence, tant que je n'aurai pas le chef de l'État en face de moi, c'est pourquoi maintenant...
Il nous écoute.
Et pourquoi s'entêter ? J'ai pas été invité au déjeuner des éditorialistes. Oui, pourquoi s'entêter en ce moment ? Vu la tournure que ça prend avec le contexte social.
Mais s'il débranche ça,
Politiquement, s'il arrête, Emmanuel Macron est mort politiquement. Ensuite, moi, là où je vous rejoins pas, c'est que, je pense, comme vous le disiez tout à l'heure, qu'il n'y a jamais de bon moment, en fait, pour réformer les retraites. Vous n'aurez jamais un plébiscite ou une demande des Français pour dire, s'il vous plaît, est-ce que monsieur Emmanuel Macron ou monsieur le président de la République, est-ce que, s'il vous plaît, on peut travailler plus? Est-ce qu'on peut réformer les retraites? Jamais ça n'arrivera. Donc, toutes les réformes des retraites sont toujours passées difficilement. Et ensuite, c'est quand même rentré progressivement dans le logiciel de la société. Et le dernier argument, c'est que réellement, les prévisions qu'on a quand même par rapport au déficit de l'équilibre des retraites, c'est des prévisions quand même qui sont comprises entre 10 et 15 milliards d'euros. C'est pas des chiffres qui ont été inventés. Et je pense réellement aussi faut arrêter le mythe de se dire que nous, on est le seul pays d'Europe quand même qui part à la retraite à 62 ans, les autres sont à 65, 67. Il n'y a pas d'exception française, le génie français, je le vois pas. Donc en fait, la conséquence quand même directe qu'on pourrait subir si on ne réforme pas, c'est qu'en fait, on va décrocher par rapport aux autres pays parce que les autres travaillent plus, parce qu'ils travaillent sans doute parfois mieux. Et en fait, on peut pas rester comme ça, cocorico, on est les seuls et on a raison contre tout le monde.
Un tout petit mot, vous voulez rajouter Nathan avant la pause, Nathan Devers ?
Oui, je voulais rajouter deux choses. Premièrement, c'est que c'est vrai que sur la déclaration de Madame Borne, je voulais juste rebondir dessus, où elle disait, en effet, elle répondait complètement à côté, elle faisait une manipulation rhétorique classique. On se souvient quand même que le gouvernement, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, ont été les premiers à s'indigner de cette fake news, je mets des guillemets, enfin qui était en l'occurrence une erreur factuelle, mais qui n'était pas une fake news volontaire, de certains opposants, comme Manuel Bompard, sur les 25%, vous savez, des 10% les plus pauvres, qui seraient décédés à l'âge de 64 ans. C'était une erreur d'interprétation d'une étude complexe. Mais bon, donc, quand il s'agit de critiquer les fake news de leurs opposants, alors là, ils y vont à plein régime, et quitte d'ailleurs un petit peu à passer à côté d'un vrai débat de fond sur le fait que, en effet, les gens moins favorisés décèdent plus tôt. Et en revanche, eux, ça ne les dérange pas de répondre à côté des faits. Et donc, il y a quelque chose qui est très dérangeant dans la parole de ce gouvernement, c'est de s'arroger une sorte de monopole de la vérité sans non plus s'y plier totalement.
Bon, allez, on fait une petite pause, on se retrouve dans un instant. On parlera des retraites, on parlera de sécurité, on parlera de ce qui s'est passé à Rouen, où ce père de famille s'était fait justice lui-même. Il a été condamné par la justice. Avec une peine aménageable. On y revient dans un instant, à tout de suite dans Punchline sur CNews. Il est 17h30, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant dans Punchline sur CNews. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
Le trafic en gare de l'Est à Paris très fortement perturbé après un incendie volontaire sur des câbles électriques en Seine-et-Marne. Ce matin, environ 600 câbles ont été endommagés dans un poste d'aiguillage à Vers-sur-Marne. Et on vient de l'apprendre, le trafic sera également fortement perturbé demain avec un TGV sur trois. La SNCF a porté plainte et une enquête a été ouverte. Le Sénat a adopté en première lecture un projet de loi favorisant la construction de nouveaux réacteurs nucléaires. Un projet de loi avec des dispositions controversées comme la suppression du plafonnement à 50% de la part du nucléaire dans le mix électrique d'ici 2035. Le texte sera ensuite examiné en mars par l'Assemblée nationale. L'Allemagne va examiner la demande d'autorisation de la Pologne pour transférer 14 chars Léopard 2 à l'Ukraine. Ces chars lourds de fabrication allemande doivent aider à repousser l'invasion russe. Et en vertu de la législation allemande, un pays possédant des armements allemands doit demander l'autorisation de Berlin pour les transférer à un pays tiers.
Merci beaucoup Mathieu Devez pour ce rappel des titres de l'actualité. On est toujours avec lui de Ragnel, avec Nathan Devers, Eric Revel, et on accueille Jean-Christophe Covid. Bonsoir, secrétaire national Unité SGP, vous êtes policier. On reparlera de la réforme des retraites parce qu'elle impacte aussi les policiers et pas seulement les mères de famille. Mais d'abord, je voudrais qu'on prenne la direction de Rouen, où vous savez, un procès s'est tenu aujourd'hui, celui de cet homme qui s'était fait justice lui-même contre un individu dont il pensait qu'il avait agressé sa petite fille de 6 ans. Noémie Schulz est sur place avec Olivier Madinier. Bonsoir Noémie. D'abord, quelles ont été les réquisitions? Rappelez-nous les faits aussi. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque?
Alors à l'époque, on est 24 heures après l'agression d'une petite fille de 6 ans dans sa chambre. Ça fait 24 heures que son père ne dort pas, il guette, il s'est mis dans la tête que les policiers ne faisaient pas ce qu'il faut pour retrouver le jeune homme, l'auteur de l'agression sexuelle. Et un ami l'appelle vers 2 heures du matin en lui disant qu'il a interpellé dans la rue un jeune qui pourrait correspondre à la description faite par sa femme. Il lui envoie une photo. Il se rend donc sur place et là, convaincu qu'il a affaire au jeune qui a agressé sa petite fille, eh bien, il lui porte un premier coup. Le jeune tombe à terre. Il va le frapper à coups de balai, à coups de câble électrique également. Et c'est ce qui lui vaut d'être renvoyé aujourd'hui devant le tribunal correctionnel avec trois de ses amis. Le procureur de la République de Rouen, au terme d'un réquisitoire d'une heure, a eu des mots sévères à l'encontre des prévenus. Il a requis d'ailleurs la condamnation de trois d'entre eux pour violence avec armes et en réunion, des faits passibles de 7 ans de prison et de 100 000 euros d'amende. Alors il a requis des peines bien inférieures à l'encontre du père de famille dont il a compris la colère et l'émotion. Il a requis 18 mois de prison dont 6 à 9 mois avec sursis probatoire, obligation de soins et de travail. Le reste de la peine est donc aménageable contre les deux autres amis, des peines d'un et deux ans de prison dont la moitié avec sursis. Et puis la relaxe pour le quatrième dont il n'a pas la certitude qu'il a porté des coups. Mais il a eu donc, je vous l'ai dit, des mots très durs. Il appartient à la seule autorité judiciaire de dire si quelqu'un est coupable et le cas échéant de condamner. C'est une dérive grave de notre société, on ne doit pas l'accepter. Quand bien même le jeune serait coupable, je vous le dis les yeux dans les yeux, vous n'aviez pas le droit de commettre sur lui des faits de violence. En France, je le martèle, ça ne vous donnait pas le droit. Voilà donc pour les réquisitions de ce procureur de la République de Rouen.
Merci beaucoup Noémie. Ce procureur, on l'écoutera peut-être dans un instant si on a le son. Mais sur le fond, Jean-Christophe Couvi, la justice rappelle, on ne peut pas se faire justice soi-même. C'est ça,
oui,
le message?
Oui, le message,
il
est
clair. La fermeté de cette
fermeté, le procureur, il est dans son rôle parce qu'effectivement, il rappelle la loi, qu'en France, il n'y a que les magistrats qui rendent la loi. Voilà, c'est j'allais dire la fondation d'une démocratie. On ne se fait pas justice soi-même. Après, effectivement, et encore une fois, c'est pas un flagrant délit. C'est-à-dire, c'est pas comme vous arrivez sur une scène, vous découvrez qu'il y a quelqu'un, et dans la chambre, et là, c'est même pas que vous faites justice, c'est que vous arrêtez l'action. Là, c'est différent. C'est-à-dire que là, on patrouille, on regarde, on cherche l'auteur présumé. On croit reconnaître, parce que c'est toujours ça en fait. Il y a que des zones d'ombre dans cette histoire. On croit reconnaître l'auteur présumé, et du coup, on se fait justice soi-même, sans savoir si c'est vraiment l'auteur présumé. Donc, et le père en question, même voilà, c'est pareil, il avait aussi, je pense, un passé judiciaire un peu chargé, qui fait que il ne croit pas trop, à mon avis, aux efforts de la police.
D'accord. Noémie Schulz, vous êtes toujours avec nous. Comment se sont défendus les prévenus, et notamment le principal prévenu ?
Le père de famille assume les faits, hein. Il reconnaît avoir porté, tout seul d'ailleurs, il dit qu'il est le seul à avoir porté des coups sur ce jeune, ce que conteste d'abord la victime. Il dit qu'il a été frappé par 4 hommes, ce que contestent aussi certains témoins de la scène et des policiers qui disent que certains des amis du père de famille ont aussi porté des coups, notamment ont fouetté le jeune avec un câble électrique, mais lui dit qu'il était le seul à le faire et il dit qu'il regrette aujourd'hui, c'est sûr, je ne le referai pas, c'est pas acceptable, mais dans le contexte, je ne me maîtrise pas moi-même. Hein, il a rappelé qu'il n'avait pas dormi depuis 24 heures. Je sais qu'on n'a pas à se faire justice soi-même, mais je n'ai fait que l'appréhender. La présidente lui a fait remarquer que frapper quelqu'un à coups de balai et de câble, c'est un peu plus qu'appréhender quelqu'un. Et le procureur, d'ailleurs, a évoqué un lynchage. Ses amis, eux, ont expliqué qu'ils n'avaient pas donné de coups et qu'ils avaient au contraire permis, en quelque sorte, retenu le père de famille d'aller plus loin et de porter des coups plus graves contre le jeune.
Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Noémie Schulz. Louis de Ragnel, effectivement, c'est une affaire qui a beaucoup marqué l'opinion publique. Parce que,
ce sont des affaires très compliquées.
Elle interpelle chacun d'entre nous, en fait. Qu'est-ce qu'on aurait fait à la place
Parce que, père de famille qui essaye de protéger sa fille, bon, il n'est pas certain de tout, mais il se dit que la police n'arrêtera pas ou la justice ne condamnera pas. On ne peut pas l'empêcher de penser ça, d'autant plus que c'est quelque chose qui est de plus en plus prégnant dans la société, à la lumière d'un certain nombre de décisions de justice. Ça rappelle évidemment l'affaire du bijoutier de Nice, ça rappelle l'affaire du buraliste de Lavaur. Alors là, c'était pas pour les mêmes faits, mais effectivement, ce sont des questions qui traumatisent aussi l'opinion publique. Moi, je rappelle aussi simplement quand même que la personne, donc la victime d'aujourd'hui, qui sera peut-être l'accusé de demain, c'est quand même un mineur non accompagné, 16 ans, son âge n'est pas encore confirmé, donc qui est d'origine guinéenne. Et donc, si c'est cette personne qui était réellement au domicile de ce monsieur, donc qui a voulu obtenir réparation lui-même, ça pose encore une fois quand même la question de l'accueil des mineurs non accompagnés, ce qu'on appelle les mineurs isolés. Ça pose encore une fois la question de la surreprésentation des étrangers dans la délinquance. Mais voilà, encore une fois, c'est vrai, normalement on ne doit pas faire justice soi-même, et en fait c'est la base du contrat social dans notre société, c'est-à-dire qu'on les Français payent des impôts pour déléguer le monopole de la violence et de la justice
mais
à
la
l'État.
Justice, il y a un divorce.
Je sais bien.
Les Français n'ont plus confiance en leur justice.
Mais peut-être si je peux sortir un tout petit peu de mon rôle là,
oui.
C'est qu'en fait le message, il y a peut-être un message à retenir, c'est que si demain les gens ont envie de faire justice eux-mêmes, en fait ça va se retourner contre eux. Donc il faut surtout pas faire justice soi-même. Il faut appeler la police. Il faut tout faire en tout cas pour essayer d'avoir confiance dans la justice.
Le Covid, c'est ce que j'imagine vous allez redire.
Ben moi, je suis dans mon rôle de policier aussi. Alors effectivement, je suis aussi un papa. Et voilà, on ne sait pas comment on peut réagir parce qu'on fait le film 10 fois en disant moi j'aurais fait comme ci, j'aurais fait comme ça. Effectivement, on doit tous respecter la loi. Et en tant que policier, je suis là pour le dire. Nous, on est là pour protéger les gens. C'est à nous, ce pouvoir-là, il nous est délégué par la justice, effectivement. Mais voilà, sur le fait, comment on réagirait tous ? Nous sommes tous humains, on ne sait pas comment, encore une fois, quelle pourrait être notre action. Maintenant, oui, il faut que les Français reviennent vers la justice et regagnent confiance. Et c'est pas facile de retrouver une confiance quand on a déjà un divorce en cours, quelque part. Mmh. On le voit dans les sondages, on voit qu'il y a une fracture entre le citoyen français et ce qu'il attend de sa justice et de l'État. Et donc, c'est tout ça, tous les cœurs, j'allais dire, à regagner. Mmh. Bah, le travail va être de longue haleine, il faut s'y atteler dès maintenant.
Nathan Devers.
Je pense qu'il y a cette affaire, en quelque sorte, est un échantillon ou même un précipité de l'état actuel du débat public. Et je ferai la distinction entre l'affaire en elle-même et la méta-affaire, entre guillemets. L'affaire en elle-même, en effet, c'est que personne ne peut savoir comment nous réagirions à la place de ce père de famille. Et la pulsion de vengeance, le désir de vengeance, fait partie des pulsions humaines. Ensuite, tout l'effort, normalement, de l'humanité, de l'éthique, c'est de ne pas céder à ce genre de pulsions. Mais personne ne peut savoir. En tout cas, moi, je ne peux pas vous dire comment je réagirais dans ces cas-là. Qu'un individu fasse ça, sans doute, quand il a agi ainsi, il savait qu'il finirait par se retrouver lui-même au tribunal, par être condamné. Il est condamné, point final. Mais par-delà l'affaire, il y a ce que j'appellerais la méta-affaire, c'est-à-dire la résonance entre cette histoire et tout ce qu'on peut entendre dans le débat public concernant la manière dont il faut faire face à l'insécurité. On entend aujourd'hui beaucoup, il y a beaucoup de gens, pas seulement des partis politiques, pas seulement des éditorialistes, des intellectuels, même dans, je dirais, dans le monde citoyen, on entend beaucoup de gens estimer que face à l'insécurité, il faut renoncer à l'état de droit, ou renoncer à l'esprit de l'état de droit. Il faut en sortir, il faut abandonner certains principes fondateurs de ce que c'est qu'un état de droit, ou pas nécessairement supprimer totalement l'état de droit, mais même composer avec lui, en sortir un petit peu, etc. Et c'est un discours qui peut prendre mille et une formes. Et eh bien, il me semble que là, nous avons la démonstration par A plus B de ce qui se passe quand on sort de la logique de l'état de droit, raison pour laquelle l'état de droit doit être protégé par-delà cette affaire en elle-même.
D'accord. Eric, vous voulez rajouter quelque chose à ce débat ?
Je ne suis pas d'accord, parce que en réalité, ce n'est pas que les gens souhaitent, à mon avis, la suppression de l'état de droit, certains intellectuels, certains éditorialistes, ce n'est pas ça le sujet. C'est que les Français, et ils ont plein d'exemples, ne croient plus à la solidité de l'état de droit. C'est très différent. Pourquoi ? Parce que l'état de droit, c'est aussi des services publics. L'état de droit, c'est aussi une justice qui a des moyens qui fonctionnent. L'état de droit, c'est aussi le respect de la police. Or, les gens, peut-être poussés par leur émotion, comme ils ont le sentiment que l'état de droit n'existe plus et ne les protège plus, et ils ont plein d'exemples dans leur vie quotidienne, alors, du coup, ils outrepassent l'état de droit. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut se faire justice soi-même. Je dis simplement que il s'agit pas de commenter la suppression de l'état de droit, mon cher Nathan. Il s'agit de dire que les Français, à mon sens, ne croient plus à cet état de droit, en tout cas. Ils ne le croient plus assez solide pour les protéger. Ce qui, à mon avis, est différent.
C'est pas la même chose, en effet, d'estimer que le service public est en très mauvais état, que tout ce qui relève de l'État, du budget, de nos impôts, du contribuable, fonctionne globalement assez mal et qu'il tende à se détériorer, et donc de désirer un état de droit qui soit plus fort ou qui soit en meilleure santé. C'est pas la même chose de désirer ça, ou de désirer s'en prendre à l'état de droit. Et il y a quand même, dans le pays, c'est un discours qu'on entend, consistant
le court terme qui est drivé par l'émotion sur cette affaire-là, et le long terme qui consisterait à dire on va prendre du temps pour resolidifier l'état de droit pour que les Français se sentent de nouveau protégés. Il y a le court terme, cette affaire, et puis il y a l'état de délabrement, à mon sens, terrible de l'état de droit.
En fait, le ressenti des gens, quand vous discutez avec eux autour de vous, c'est peut-être un discours de bistrot, de comptoir, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que vous disent les gens ? En fait, moi, je suis citoyen, je paye des impôts, j'ai tout à perdre. C'est-à-dire que l'État envers moi, si j'outrepasse mes droits, etc. L'État va tout me prendre. Bon, quand on regarde quelqu'un, comme un migrant, un mineur non accompagné, on n'a pas de saisie sur ces gens-là. C'est-à-dire qu'en fait, cette impression, en fait, qu'on peut rien faire, on baisse les bras, et par contre, effectivement, on peut tout. J'allais dire, l'État, la puissance de l'État peut se retourner sur les citoyens parce qu'ils sont solvables quelque part. Et parce qu'eux, ils ont tout à perdre. Et donc, en fait, c'est cette espèce de résonance qui dit, moi, je suis obligé de rester dans le rang. Et quelque part, on me fige dans mon rôle. Alors que les autres arrivent, ils ont tous les droits, on peut rien faire contre eux. Ils sont pas expulsables parce qu'on n'a pas de laissez-passer. Ils sont mineurs, donc on n'a pas d'emprise, etc. Et donc, c'est ce côté un petit peu, je suis une victime aussi.
Je suis entièrement d'accord avec ce que vous venez de dire. J'ajoute juste une chose. Et je pense qu'il y a beaucoup de Français aussi qui se disent, mais en fait, si cette personne n'avait pas été agressée, il ne se serait rien passé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'affaires dans lesquelles il y a des gens qui sont mis en cause parce qu'effectivement, ils ont voulu se défendre ou ils ont voulu attaquer ou se venger. Mais en fait, s'ils n'avaient jamais été provoqués, il ne se serait rien passé. Et je reprends les trois affaires. Donc cette affaire-là, celle de Rouen, le bijoutier de Nice n'aurait jamais tiré s'il n'avait jamais été cambriolé. Alors vous me direz, avec des scies, on mettrait pareil en bouteille. Mais de fait, c'est la réalité. Le buraliste de Lavore dans le Tarn n'aurait jamais mis son système de mise à feu s'il n'avait pas été cambriolé 10 fois de suite. Et en fait, la cause de tout ce problème-là, c'est pas tant la remise en cause de l'état de droit, c'est l'augmentation d'une forme de délinquance qui a du mal à trouver des réponses pénale, du mal à être sanctionné. En tout cas, les Français ne considèrent pas que les réponses apportées sont suffisantes. Et donc,
ils se disent, bah, puisque l'État n'y parvient pas, puisque la police, mettent la police et la justice dans le même sac.
Social.
Comment?
Vous parliez de contrat social. De Rousseau. Tout à l'heure. Oui, de Rousseau, ça fait penser à ça, parce que souvent, j'ai l'impression que l'analyse de gauche continue de baigner dans cette philosophie rousseauiste qui veut que l'homme soit bon, que ce soit la société qui le corrompt. Mais je regrette, l'émotion n'étant pas bonne conseillère, l'émotion émane de l'homme, et donc en fait l'homme qui a des émotions n'est pas bon à l'origine forcément, et c'est pas que la société qui le corrompt, c'est ses propres...
C'est un débat passionnant.
C'est la phrase de Nietzsche sur comment combattre un monstre sans en devenir un soi-même. C'est qu'il me semble que quand on est confronté aux figures du mal, et un viol ou des agressions sexuelles, ce sont des figures du mal, l'insécurité, c'est une figure du mal, je ne les mets pas sur le même plan, hein, mais voilà. On pourrait prendre un autre exemple qui est plus radical encore, c'est les États-Unis après le 11 septembre. Ils sont tous confrontés nationalement, tous les Américains, au mal le plus absolu, le plus visible, le plus spectaculaire. Et dans ce combat contre le mal, ils ont remis en cause la logique de l'État de droit. George Bush et tous ses conseillers, tous les intellectuels organiques du pouvoir américain disaient, face au mal absolu qu'est Ben Laden et qu'est l'islamisme, il faut absolument, tous les moyens sont bons. Et on a vu où ça les a menés, cette logique. Ça les a menés à faire une guerre absurde, ça les a menés à faire des lois qui étaient complètement contraires à leur esprit. Ça les a menés à se rentrer, me semble-t-il, dans une crise politique dont ils ne sont toujours pas sortis, à créer de plus en plus de divisions. Donc il me semble que quand on est confronté à des problèmes de cette nature, et je ne mets pas sur le même plan l'insécurité et l'islamisme, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais quand on est confronté à des problèmes de cette nature, tout l'enjeu c'est évidemment de les combattre, mais en faisant bien attention de ne pas être entre guillemets contaminé par la logique de ce combat-là.
Après, l'état de droit peut évoluer. L'état de droit, c'est pas quelque chose qui est figé. On l'a bien vu d'ailleurs, il y a eu un avant et après les attentats de 2015. Et d'ailleurs, vous pourriez, dans la logique de ce que vous dénonciez à l'instant s'agissant des États-Unis, juste après les attentats, on a incarcéré quasiment préventivement des gens dont on pensait qu'ils s'apprêtaient à partir faire le djihad. Non mais c'est un vrai débat. Je suis pas leur avocat.
Et aujourd'hui, on rapatrie les femmes et les enfants.
Et je ne suis pas là pour. Je suis pas là en train de. Je vais pas m'indigner du fait que la justice ait incarcéré ces personnes-là. Mais ça pose. Il y a des vraies questions morales. Et à partir de ce moment-là, il y a eu un déplacement d'une certaine manière de l'état de droit. Et l'état de droit, il bouge tout le temps. Les débats qu'on a eus sur donc les incarcérations préventives, les exécutions extrajudiciaires qui sont faites parfois à l'étranger par les services français. Tout ça pose des questions, mais encore une fois, moi c'est peut-être la nuance que j'ai avec vous, c'est que l'état de droit doit s'adapter et est là pour protéger la société. Et dans la mesure où parfois il y a des menaces exogènes à la société, il faut que l'état de droit soit vraiment un bouclier et soit pas au contraire un frein. Et parfois, l'état de droit aussi doit s'adapter à la menace intérieure et donc parfois faire des choses qu'on ne faisait pas il y a 20 ans. Et qu'aujourd'hui, on fait parce qu'on considère qu'elles sont nécessaires.
L'état de droit, c'est vous, les policiers, en tout cas, qui en êtes garants. Hein, voilà, c'est vous qui faites régner l'ordre, a priori, dans notre pays, notamment dans les manifestations. La prochaine grande manifestation syndicale contre la réforme des retraites, c'est le 31 janvier. Mm-hmm. Est-ce que vous anticipez déjà des chiffres de mobilisation importants, comme celle du 19 janvier ? Est-ce qu'il y a un dispositif de sécurité qui a été revu, remis différemment en place ?
Pour l'instant, nous, on mise sur le même nombre, voire plus, parce qu'on voit bien que
ça ne sera pas en dessous d'un million deux, quoi. Voilà.
Ah, je pense que ça ne sera pas en dessous de ce qu'on a fait là, jeudi dernier. Mm-hmm. Et au contraire, même, on voit bien que...
Hein, on, c'est qui? C'est les manifestants, les policiers?
Non, mais on,
bah, c'est les
syndicalistes,
deux.
Un peu des
c'est
deux.
Les deux.
Je fais exprès, ouais, vous êtes taquin aujourd'hui. Hein. Non, mais oui, effectivement, j'ai parlé au nom des syndicats et des policiers. Comme ça, c'est vrai, j'ai deux casquettes. Des fois, c'est un peu compliqué. Alors, en tant que syndicaliste, oui, effectivement, on espère avoir autant de monde, si ce n'est plus, parce qu'on voit bien que c'est, encore une fois, c'est un débat sociétal qui dépasse, encore une fois, juste la petite comptabilité économique et le tableau Excel. On voit bien que c'est tout un projet social et que les gens sont vraiment, j'allais dire, au fond de ce problème et veulent aller dans la rue pour manifester ce mécontentement. Maintenant, en tant que policier, effectivement, notre job, c'est de permettre aux gens d'aller dans la rue sereinement et d'aller justement manifester en toute sécurité et encore une fois de faire barrage à tous les excités, les black blocs, les totos, enfin les autonomes, etc. Bon, les anarchistes autonomes, etc. Comme on a vu l'autre jour, jeudi dernier, ça s'est très bien passé et on voit bien que quand tout est préparé, que tout est bien encadré, il n'y a pas de dégâts dans la rue. En revanche, effectivement, quand c'est l'anarchie, Bah, on voit bien, effectivement, oui, que bah, heureusement qu'il y a la police. Sinon, quelle société on aurait ?
Louis Dragnel, pour ce qui est de la manifestation du 31 janvier, on n'a pas encore d'ordre d'idée de la mobilisation et des mots d'ordre.
En revanche, il y a une crainte au gouvernement qui va un peu dans le sens de ce que vous dites. Je vais essayer de le dire sans être caricatural, mais comme ça s'est bien passé la première fois, politiquement, si ça s'était mal passé, on aurait glissé, dérapé dans un autre débat, mais ça aurait permis au gouvernement de dénoncer, regarder la violence des manifestants, regarder leur radicalité. Ce ne sont pas des gens
ça
responsables.
Ça n'a pas été possible.
Et là, de fait, c'est objectif, c'est une donnée objective, les manifestants se sont très bien comportés et il n'y a pas eu de dérive radicale, en tout cas
à la marge. Il y a eu deux moments de friction intense.
Globalement, quand on compare avec les trois dernières années qu'on vient de vivre, ça n'a rien à voir par rapport au nombre de personnes, 1 200 000. Voilà. Donc la crainte du gouvernement, c'est que ça se passe encore une fois plutôt bien, avec plus de monde et avec cette capacité aussi d'entraînement de nombreux Français qui, encore 6 mois, 1 an, parfois 2 ans, étaient favorables à cette réforme des retraites et qui maintenant se disent mais non, mais en fait on n'en veut pas. Et par effet d'entraînement, par effet aussi de mode, mais de conjoncture où il y a une remise en question profonde du rapport au travail dans la société et pour vous donner une traduction un peu politique, il y a énormément de gens, par exemple, qui ont voté Nicolas Sarkozy, puis François Fillon, puis Valérie Pécresse, pour ceux qui, il n'en restait plus beaucoup, mais voté en tout cas pour les Républicains. C'était quelque chose qui avait tout, le travail a toujours été, l'allongement de la durée du travail toujours été au cœur du projet de cette droite-là. Il y a beaucoup de gens qui ont fait ces choix-là électoraux et qui aujourd'hui disent, ben non, nous, on ne vote plus. Et d'ailleurs, ça se voit également à l'Assemblée nationale, où une partie du groupe LR
ne votera pas.
Et on se pose même la question de savoir. Parce que là, si vous voulez, il y a un parfum quand même d'inquiétude au gouvernement.
Le 1 200 000, voire 2 millions de personnes dans la rue, ça les a un petit peu secoués.
Oui. Et la crainte, c'est que donc.
On croyait que ça leur faisait rien.
Qu'il y ait beaucoup plus de manifestants. Et que là, voilà, il y a cet engouement populaire. Et deuxièmement, que des députés qui, tous les week-ends, rentrent dans leur circonscription se disent « Oulala, mais chez moi, tout le monde est contre la réforme. Je ne vais pas m'engager sur ce texte. » Alors, vous allez avoir progressivement, peut-être, des députés qui vous disent « Aujourd'hui, je suis pour. » Puis, finalement, ne se prononcent pas. Et puis, qui, secrètement, votent contre.
Jean-Christophe Pauville, dernier mot sur cette réforme.
Qui vous
concerne aussi.
Oui, ça nous concerne, bien sûr. Mais moi, je me dis, en fait, les gens, parce qu'on veut déplacer le débat sur le politique. Donc, on dit, voilà, je suis adhérent d'un parti et je dois accepter, comme un package, en fait, tout ce que le parti dit. Et là, on a bien vu jeudi dernier que ce n'était pas des gens qui appartenaient que au syndicat ou que à des partis. C'est des citoyens qui, effectivement, sont contre cette réforme des retraites qui est proposée, et c'est pas parce que par exemple vous êtes adhérent à LR ou En Marche ou ceci ou cela que vous devez à la lettre accepter le package. Donc dire oui, on a voté pour nous, pour moi, parce que le contrat était clair, donc du coup je suis mandaté pour, on peut peut-être ne pas forcément adhérer à ce petit point de retraite et être d'accord par exemple sur les autres points. Enfin voilà, encore une fois, ça c'est vraiment le jeu des politiques qui essayent toujours d'enfermer tout le monde dans le package en disant ah, j'ai des voix, donc vous êtes d'accord sur tout. Pas forcément, je pense, justement.
D'accord, et on verra tout
et
ça.
Et la démocratie, elle évolue, et puis et effectivement, il faut tenir compte. Et encore une fois, on n'est pas là que pour se compter dans la rue. On est là pour faire avancer des choses et pour vraiment défendre une thématique qui nous tient à cœur.
Et qui est le retrait de la réforme.
Donc, voilà. Et on rediscute, parce que c'est pas une urgence absolue. Hein.
Merci beaucoup Jean-Christophe Couvier. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On revient bien sûr sur cette réforme des retraites. Les grèves à la SNCF avec les vacances de février qui seront fortement perturbées côté SNCF. A tout de suite dans Punchline. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Les vacances scolaires de février, otages de la bataille contre la réforme des retraites. La CGT Cheminots et Sudrail appellent à une grève reconductible à la SNCF dès les 7 et 8 février. Va-t-on vers une France bloquée si le gouvernement maintient sa réforme? Jusqu'où sont prêts à aller les grévistes pour peser dans le rapport de force? Les réponses ce soir dans cette édition. Autre point sensible de la réforme, la question des femmes qui devront partir plus tard en retraite. Seront-elles pénalisées au final par la réforme? C'est ce qui ressort de l'étude d'impact commentée par le gouvernement. Et pourtant, la première ministre, Elisabeth Borne, qui se dit féministe, maintient que son projet bénéficiera aux femmes. On démêlera le vrai du faux. On n'en dit pas, en tout cas ce soir, dans Punchline, juste après le rappel des titres de l'actualité. Il est pile 18h. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. Non, la réforme des retraites ne pénalise pas les femmes, assure Elisabeth Borne. Elle était interpellée cet après-midi lors des questions au gouvernement. Écoutez sa réponse.
Nous réduisons les inégalités inacceptables entre les femmes et les hommes au moment de la retraite. Les femmes seront les premières bénéficiaires de la revalorisation des petites pensions. Elles sont aujourd'hui plus nombreuses à avoir cotisé avec des revenus modestes. Et grâce à la revalorisation de la retraite minimale, près d'un tiers d'entre elles vont voir leurs pensions augmenter.
Voilà pour Elisabeth Borne. On y revient dans un instant dans Punchline. Toujours au sujet de la réforme des retraites, la CGT Cheminots et Sudrail proposent donc une grève reconductible dès la mi-février à la SNCF. Si le gouvernement ne retire pas son projet, toutes les précisions dans un instant avec Margot Faudéré de Europe 1. Des trains, il n'y en avait pas justement aujourd'hui, Gare de l'Est à Paris. Mais pour une autre raison, un incendie s'est déclaré cette nuit sur les câbles électriques. Un acte volontaire selon la SNCF qui annonce qu'une dizaine d'agents sont à l'œuvre pour réparer au plus vite. Le trafic reprendra partiellement demain. Une galère pour les voyageurs contraints de s'organiser différemment. Écoutez certains d'entre eux.
Là, je suis vraiment en galère. J'ai un magasin à ouvrir demain, donc je vais essayer de trouver une solution. Je sais, j'ai aucune solution pour le moment.
Là, c'est un peu le stress, un peu la panique. On va voir ce qu'on peut faire. Je pense qu'on va voir si on ne peut pas y aller forcément en voiture peut-être. Et on va voir les départs de train ailleurs, peut-être Gare du Nord.
Là, pour l'instant, il n'y a rien de disponible, mais sinon on va faire ça dans la nuit ou des trains de nuit, on ne sait pas encore.
18 mois de prison requis contre un père de famille à Rouen pour s'être fait justice lui-même. La peine comprend 6 à 9 mois de sursis probatoire. En octobre dernier, il avait tabassé avec 3 de ses amis un mineur. Il le soupçonnait d'avoir agressé sexuellement la veille sa fille de 6 ans. Enfin, la France a rapatrié 15 femmes et 32 enfants des camps de prisonniers djihadistes en Syrie. 8 de ces femmes, visées par un mandat de recherche, ont été placées en garde à vue. La ministre des Affaires étrangères précise que les mineurs ont été remis au service chargé de l'aide à l'enfance. Ils feront l'objet d'un suivi médico-social. À noter qu'il s'agit de la troisième opération de ce genre après celle de juillet et d'octobre 2022. Voilà, il est 18h02, on est en direct sur CNews et sur Europe 1 avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir Louis.
Bonsoir Laurence.
On accueille aussi Fabien Villedieu, représentant Sudrail. Bonsoir Monsieur Villedieu, ça tombe bien. Beaucoup de choses à évoquer avec vous, notamment ces grèves reconductibles que vous avez annoncées aujourd'hui. On est avec Nathan Devers, agrégé de philosophie. Bonsoir Nathan.
Bonsoir Laurence.
Nous sommes avec Margot Faudéré d'Europe 1. Bonsoir Margot. Nicolas Meillon, expert en énergie. Bonsoir.
Bonsoir Laurence.
Et ingénieur surtout. Ainsi qu'Éric Revel, journaliste. Merci à tous d'être là. On va commencer, si vous le voulez bien, par ce qui concerne au plus près les Français. Cet appel à la grève reconductible lancé par la CGT Cheminots et Sudrail dès la mi-février. Margot Faudéré d'Europe 1, expliquez-nous ce qui est prévu exactement en termes de perturbations.
Alors ce qu'on peut dire, Laurence, c'est que la CGT Cheminots et Sudrail menacent de mener une grève reconductible dès la mi-février à la SNCF si le gouvernement ne retire pas son projet de réforme des retraites. Alors il s'agirait de grèves menées par période de 24 heures avec un premier mouvement les 7 et 8 février prochains. À cette date-là, les vacances scolaires auront déjà commencé, notamment à Bordeaux ou à Lyon. À noter que la CGT, elle, poussait plutôt pour le week-end du 4 et 5 février, premier week-end des vacances scolaires. Finalement, ça n'a pas été retenu. Et puis ensuite, pour la période de mi-février, cela correspondra au début des vacances, notamment à Paris ou à Toulouse. Entre-temps, rappelons-le, le 31 janvier aura lieu la deuxième journée de mobilisation contre la réforme des retraites à l'appel de tous les syndicats, après celle qui a été suivie par plus d'un million de manifestants partout en France jeudi dernier. Et ce jour-là, rappelez-vous, le trafic avait été très perturbé sur l'ensemble des lignes, avec seulement un TGV sur 5 sur l'Est Atlantique, un TER sur 10 et aucun intercité.
Merci beaucoup pour ces explications, Margot Faudéré. Fabien Villedieu, c'est quoi le but en fait? Pour une journée, le 19 janvier, les gens s'étaient arrangés, s'étaient débrouillés, ils avaient prévu que le trafic serait bloqué. Là, on part sur un mouvement reconductible, c'est-à-dire pour créer un maximum de perturbations sur la durée.
Bah, le but, c'est de gagner. Voilà. Et tout le monde aura bien compris qu'on ne gagnera pas en faisant une journée de temps en temps. Même si c'est important qu'il y ait du monde dans la rue, même si c'est important que les salariés du public et du privé viennent, se mettent en grève. Mais on a un gouvernement qui n'écoutera pas si ce rapport de force se limite à ça. J'ai peur qu'il ne recule pas sur cette réforme des retraites. Donc il faut un peu monter en pression. Et du coup, c'est le sens de l'action du 31, où on proposera le 31 aux cheminots en Assemblée Générale de se mettre en grève sur 2 jours. Donc on crante un petit peu.
Donc 7-8 février, ça?
Voilà, le 7 et le 8.
Vous avez fait exprès parce que c'est les vacances scolaires ou pas?
Pas du tout. Par contre, peut-être que le gouvernement a fait exprès de passer sa loi. Voilà. Et par ailleurs, il y a d'autres secteurs professionnels qui parlent de ces dates. Voilà. Parce que les cheminots tout seuls, si c'est une grève de cheminots, voilà, on plie le game et puis on a perdu. Voilà, c'est le but, c'est effectivement qu'il y ait d'autres secteurs professionnels qui viennent. Il y a l'énergie qui parle déjà de ces dates, il y a les raffineurs qui parlent de ces dates, mais c'est ni une question de cheminots, ni de raffineurs, ni d'énergie, c'est une question qui concerne tout le monde. Donc il doit y avoir d'autres secteurs professionnels qui viennent le 7 et le 8, et s'il y a du monde en Assemblée Générale, s'il y a des grévistes, et si effectivement il y a la volonté d'aller plus loin, nous on proposera la grêve reconductible. Alors, à partir de
jusqu'où vous êtes prêt à aller? Combien de temps? C'est quoi le maximum?
Jusqu'à la victoire, voilà, après... Vous savez,
vous
les grèves,
dire que le gouvernement ne retirera pas son projet
si on se contente de faire uniquement des journées saute-mouton. Ça, j'ai peur du résultat. Mmh. Par contre, si effectivement on crante en termes de mobilisation, je pense qu'on peut gagner. Et par ailleurs, vous savez, les grèves, surtout les grèves reconductibles, ce n'est pas une partie de plaisir. Voilà. Moi, la dernière fois que j'ai fait...
Pour les usagers non plus, hein, M. Villedieu, vous le savez.
C'est vrai, mais vous savez, les usagers nous soutiennent, parce que les usagers...
Oui, mais jusqu'à un certain point.
Hein. Les usagers, on verra.
Regardez, de toute façon, il y a un usager qui bondit en face de vous.
Alors, attendez, on va terminer, M. Villedieu, puis je passe la parole à Eric Revel.
Ça ne fait pas les usagers. Peut-être vous êtes usagers qui nous soutiennent. Hein, voilà. Mais par ailleurs, les usagers, c'est aussi des gens qui ont pour envie de partir à 64 ans. Voilà. Parce que ne pas avoir son train, c'est une galère, ça je le conçois. Par contre, partir à 64 ans, ça c'est la vraie galère.
Alors, Éric Revel, peut-être, vous vouliez réagir,
moi,
et après Louis.
J'écoute toujours avec vraiment beaucoup d'attention, M. Villedieu, parce que je trouve que sous la casquette, il y a un visage angélique, il y a des mots tranquilles, hein, vous usez de belles métaphores, enfin, ça va un peu gêner, ça... mais en fait, non, pas du tout. Là, c'est la loi syndicale de l'emmerdement maximum, là, parce que les Français vont prendre leurs vacances, bon. Il y a des salariés, il y a des gens qui seront peut-être même contre la réforme. Et en réalité, ils vont être, Laurence Ferrari a utilisé le mot tout à l'heure, ils vont être pris en otage. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'autre choix. Je vous dis même pas le boxon que c'est déjà pour se faire rembourser ces billets de la grève précédente. Il y a des gens qui n'arrivent toujours pas à se faire rembourser.
Alors, vous ne parlez même pas du 19 janvier. Hein.
Non.
Vous parlez du mois de décembre.
Ouais, hein. Du mois de décembre. D'accord. Donc, ouais. Si vous voulez, en réalité, ces gens qui mettent de l'argent sur la SNCF pour essayer d'avoir quelques jours de repos, en réalité, même depuis décembre, ils n'arrivent déjà pas à se faire rembourser. En fait, ça ne fonctionne pas. Celle de janvier, là, du 19, j'ose même pas regarder dans le détail. Non, mais ce que je veux dire, c'est que...
La loi de l'emmerdement maximum, Fabien Villedieu.
Mais oui, parce qu'en réalité, vous avez des mots légers, je comprends.
Allez-y, Monsieur Villedieu.
Mais en réalité, c'est comme ça que les gens le sentent.
Hein. Oui, alors, allez-y.
Après, il faut peser qu'est-ce qui est plus emmerdant. Est-ce que, franchement, les vacances de février, dans 6 mois, plus personne n'en parle. Hein. Bah, à la limite, t'as fait des photos, c'est sympa, tu regardes. Par contre, la retraite à 64 ans, une fois que c'est passé, t'en parles tous les jours. Oui, et je peux vous dire qu'il y a plein de gens qui doivent se dire, peut-être que effectivement, j'ai pas eu mon train, mais si j'ai gagné, j'ai gagné la possibilité de partir deux ans.
Laissez-le partir deux ans plus tôt.
Mais ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix de partir deux ans plus tôt.
C'est un coût, hein.
Mais nous, on le suit.
Si vous m'interrogez, je vous dirai ce que je pense sur le fond de cette retraite, et je le dis à chaque fois. Je trouve que c'est vraiment pas le moment, vu le contexte social, et on s'est
la
dit
réforme.
Une fois. Mais franchement, je vais vous dire, qui se souvient qu'en 2010, il y a eu à peu près autant de monde dans la rue? Et qui se souvient que ça n'a pas empêché Nicolas Sarkozy de faire passer l'âge du départ de la retraite de 60-62 ans? Deux ans en plus. Qui s'en souvient? Vous?
Alors, je pense qu'il y a des victoires différées, je vous le dis, voilà. Effectivement, on n'a pas gagné sur la réforme de 2010, la preuve, on est passé à 62 ans. Par contre, il y a aujourd'hui, tous les politiques savent que quand ils font une réforme des retraites, il y a un coût à payer, voilà. Et ça, c'est unique au monde. C'est-à-dire que dans la plupart des pays, ça passe crème, voilà. Et bien aujourd'hui, grâce à ça... C'est parce que justement, il y a un coût à payer, je finis mon raisonnement, c'est grâce à ça qu'on part en moyenne à la retraite entre 4 et 5 ans de moins que les autres pays européens, et c'est tant mieux, c'est tant mieux. Moi, je suis fier qu'on puisse partir plus tôt, qu'on puisse profiter de la retraite, qu'on puisse partir à la retraite sans forcément être malade, voire certains même les pieds devant. Eh ben, je suis fier de ça. Pourquoi le progrès, pourquoi l'avenir, ça serait de partir à 67, 70? Franchement, il y a plein de gens qui, à 62, eh ben, ils vont bosser dans les associations, ils vont s'occuper des petits-enfants, ils vont peut-être ne rien faire, eh ben, ils en ont chié toute leur vie, eh ben, c'est super qu'ils puissent partir à 62 ans. Ça n'a pas de prix. Et moi, je vais mouiller ma chemise. Je vais vous le dire, je vais mouiller ma chemise comme un dingue. Parce que la retraite, c'est pas que ma question à moi. C'est la question de tout le monde, de mes enfants, de mes filles. Moi, c'est un truc de dingue, c'est qu'on nous dit « Ouais, mais toi, tu seras pas trop touché. » Mais qu'est-ce que c'est que cet état d'esprit?
C'est pas la réalité.
Parce que t'es pas trop touché, parce que soi-disant, tu serais pas trop touché, tu devrais laisser à l'avenir à tes gosses, à mes propres filles. Donc je veux, moi, un avenir super, et je veux qu'elles aient une bonne retraite.
eh ben je devrais dire ah bah je suis pas trop touché, ouf, c'est passé entre, je suis passé entre les gouttes, donc tant pis pour eux, tant pis pour mes propres gosses. Eh ben non, pas tant pis pour mes propres gosses, pas tant pis pour ma femme, pas tant pis pour les contractuels, pas tant pis pour tout le monde. On se battra et on verra qui gagnera la fin.
Allez, on fait une petite pause, on se retrouve dans un instant. On passera la parole à Nathan Devers, à Frédéric Meillant aussi, et on va continuer ce débat. Nicolas Meillant, je vais y arriver. dans un instant, dans Punchline, il est 18h10. À tout de suite sur Europe 1 et sur CNews. 18h15, pratiquement, on se retrouve en direct sur CNews et sur Europe 1. On est en punchline, on évoque cette grève reconductible à la SNCF à partir des 7 et 8 février prochains à l'appel de la CGT Cheminots de Sudrail. On va écouter quelques usagers dans les gares qui, évidemment, voient se profiler de très grosses perturbations pour eux. Écoutez-les.
Franchement, c'est pas terrible. Nous, on est en études à Paris, donc on est là, on est obligé de prendre des trains, donc c'est pas cool pour nous et même pour ceux qui travaillent à Paris, donc... pas terrible.
Ça va pénaliser encore les passagers. Et ça fait des problèmes au niveau du travail et puis l'économie en général.
Bah, écoutez, c'est la loi de l'emmerde, hein, mais il faudra voir à terme.
Soit je peux télétravailler, mais ça s'annonce très compliqué, soit j'ai pas trop de solutions en fait. C'est vraiment pas... Une bonne nouvelle.
Bon, voilà, pas de solution hein, pour ces travailleurs. Fabien Villedieu de Sudrail, vous assumez évidemment les conséquences de cette grève et c'est même pas l'inconfort, c'est l'impact sur le travail de milliers de... Non, mais l'impact sur le travail de milliers de Français.
Bah, écoutez, on n'a pas le choix. Voilà, qu'est-ce qui nous reste ? Il nous reste le fait d'accepter cette réforme.
Les manifestations, peut-être ?
Les manifestations. Mm-hmm. Encore une fois, les manifestations, elles sont importantes, elles sont essentielles. Il faut, j'invite les gens à y participer. Mais on sait que ça ne suffira pas. Donc à partir de là, mais pourquoi il nous impose ça ? Pourquoi le gouvernement nous impose ça ?
Donc on commence par ça. Vous parliez aussi de l'énergie. On est avec Nicolas Meillant. Qu'est-ce qui pourrait se mettre... Quel secteur de l'énergie peut se mettre en grève, Nicolas Meillant ? Qu'est-ce qui peut être le plus pénalisant pour les usagers ?
Bah, moi, j'ai entendu parler des gens qui s'occupaient des raffineries. Hein, parce que je rappelle qu'en France, on a à peu près 150 personnes qui peuvent bloquer toutes les raffineries. Et donc ce serait-là, on peut revivre ce qu'on a vécu en octobre.
Sur les pénuries de carburant ?
Les pénuries de carburant, oui. D'accord. Donc ça, c'est des choses qui peuvent arriver assez rapidement, parce que non seulement on peut avoir ces grèves, mais en plus, nous-mêmes, nous avons choisi de nous passer de notre principal fournisseur de diesel, qui s'appelle la Russie, et donc, accessoirement aussi de son pétrole. Donc si on rajoute, les contraintes qu'on s'impose tout seul, et les contraintes qu'on pourra avoir en plus avec les grévistes...
Les contraintes qu'on s'impose tout seul, accessoirement, il y a une guerre en Ukraine et il y a des sanctions qui ont été prises contre la Russie.
C'est des décisions
que nous avons choisies. Voilà, on est d'accord.
C'est notre choix.
Dans l'énergie, Monsieur Villedieu, vous parliez aussi de débrayage dans l'énergie, c'est-à-dire chez EDF, dans ces sociétés.
Donc en fait, là, c'est vrai que depuis quelques temps, tout le monde se regarde un peu en chien de faïence pour savoir qui va partir. Voilà, et partir en grève, pourquoi pas en grève reconductible. Donc là, il y a effectivement des dates qui ont été autour du 7, 8, on parle du 9, voilà, qui ont été proposés par l'énergie, par les raffineurs.
Le 26 janvier, même, dans deux jours, voilà. Dans les centrales EDF, 5 sur 18 quand même.
Et le 26, donc le but, c'est que tous ces secteurs, parce que si effectivement les cheminots partent tout seuls, on ne gagnera pas, mais y compris si les raffineurs partent tout seuls, ils ne gagneront pas. Par contre, s'il y a les raffineurs, les transports, plusieurs secteurs, et moi, la loi de l'emmerdement, c'est aussi... que ça soit, plus la grève sera forte, plus elle aura d'impact et plus elle sera courte. C'est ça qu'il faut entendre. Si vraiment on arrive à bloquer, parce qu'on n'a pas le choix de bloquer,
c'est ça le but. Le but, c'est de bloquer la France.
Bloque, mais qu'on bloque pas longtemps. Voilà. Et comme ça, le gouvernement reviendra à la raison, se dira effectivement, j'ai d'autres problèmes, comme l'inflation, comme la crise énergétique, parce qu'aujourd'hui, le problème numéro un, c'est comment certains vont payer leurs factures, les particuliers, mais y compris les entreprises. Hein. Les petites entreprises, elles ont des factures qui augmentent de 2, 3, 4. Voilà. Donc, on règle d'abord ces problèmes-là, plutôt que se rajouter une crise sociale, alors qu'en fait, finalement... Enfin, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le président du corps qui l'a dit dans une commission, qui a dit que de toute façon, les dépenses, elles n'explosent pas, à peu près, elles stagnent dans le PIB. Par contre, on a un problème de ressources. Eh ben, on trouve des ressources.
Alors, Louis, vous nous précisez quoi sur les arrêts de centrales, c'est ça ?
Il était question d'arrêt de 5 centrales EDF, de 5 réacteurs, après-demain,
Voilà, donc on attend la confirmation. Enfin, on attend. Là, ça, on n'est pas passe. En train de l'espérer.
Non.
Mais la confirmation. Non, je voulais simplement répondre à mon voisin de gauche.
L'arrêt de ces centrales,
en fait, si vous voulez,
pour les particuliers.
On peut avoir des baisses de réacteurs ou des arrêts de réacteurs, mais RTE a le pouvoir de réquisitionner l'électricité quoi qu'il arrive. Donc c'est pas comme sur le carburant, c'est-à-dire qu'ils pourront de toute façon faire marcher. Alors après, il peut y avoir un couac. On peut être un jour où il fait un petit peu froid. Et on est mal coordonné. Nos voisins européens sont à -10, -20. Et on peut avoir un petit couac. Mais théoriquement, RTE peut réquisitionner les moyens quand il le souhaite.
Ok. Louis Dragnel, vous voulez poser une question à M. Villiers ?
Il y avait deux petites choses qui me frappaient dans ce que vous disiez tout à l'heure. Le premier élément, c'est qu'il y a essentiellement des gens qui viennent du secteur public qui font grève. Il y a quand même assez peu de gens du secteur privé. Et je trouve qu'il y a encore... Il n'y a que le secteur public qui a la possibilité de faire ça sans avoir trop de problèmes. C'est un peu l'impression que ça donne. Ma question est volontairement un peu provocante. Le deuxième élément, c'est que vous disiez tout à l'heure, parmi les gens qui sont bloqués dans les trains, il y a des gens qui nous soutiennent, il y a des gens qui sont contre la réforme des retraites, mais il y a aussi des gens qui peuvent être contre la réforme des retraites et contre les blocages. Ces gens-là existent également, on est d'accord ?
Oui, non mais...
Et le dernier élément, c'est que vous avez un pouvoir. Ici, personne ne remet en question le droit de grève. C'est un droit constitutionnel, il n'y a aucun débat par rapport à ça. Mais il y a certains secteurs d'activité où vous travaillez, vous êtes cheminot. Donc voilà, vous avez un pouvoir de blocage à très peu. Vous pouvez paralyser, bloquer tout le pays. Idem pour les énergéticiens. Vous êtes dans des secteurs stratégiques, les transports, l'énergie. Et donc, est-ce que vous mesurez quand même à quel point... vous avez ce pouvoir d'imposer aussi au plus grand nombre des choses que les gens n'ont pas forcément choisi. Ils ont peut-être envie d'aller travailler le jour des grèves et ils sont fortement pénalisés par votre action et ils partagent absolument pas ce que vous défendez.
Mais moi, je crois à la force du nombre. Voilà, la force du nombre. Et cette grève, elle ne pourra marcher que si effectivement il y a des boîtes privées, y compris des petites boîtes privées, qui se mettent en grève. Parce que si c'est uniquement les cheminots ou les raffineurs, voilà, on va être montré du doigt en permanence, où on fera des reportages sur effectivement telle ou telle personne qui prendra pas son train. Et donc, si c'est ça, on perdra. Par contre, si on a une grève avec un certain nombre de secteurs, y compris des gens qui se mettent pas toujours en grève, et pour le coup, d'ailleurs, les raffineurs, bon, ils ont été privatisés depuis que c'est plus Elf, Total, ouais, c'est complètement privé. Donc, c'est comme quoi, c'est pas qu'une question de public. Il y a des salariés du privé, les raffineurs, ils l'ont montré, les dockers, ils peuvent le montrer. Il y a plein de secteurs qui peuvent se mobiliser. Ils ont des statuts, mais ils ont arraché avec les dents, hein. Enfin, les gens, ils se sont battus aussi pour avoir...
Ils peuvent se permettre de faire la grève. Mais quelqu'un qui est dans une toute petite entreprise, s'il ne travaille pas, ça pénalise son entreprise.
Il peut venir à une manifestation. Ils peuvent se mettre en grève une journée. Ah oui, il peut soutenir.
Chacun peut avoir d'électricité
mettre
aussi,
sa petite pierre à l'édifice. Et franchement,
il y a un autre édifice dans l'autre sens. En fait, il n'y a pas que votre édifice. Non, mais il y a aussi des gens qui sont favorables à la réforme des retraites. Ils sont peut-être moins nombreux que vous dans l'opinion publique, mais ils existent.
Nombreux, hein. Ils sont pas très nombreux. Non seulement ils sont pas très nombreux, mais ils sont de moins en moins nombreux. Parce que moi, on m'a expliqué ça un jour sur un plateau télé. On m'a dit, ce qui est important, c'est pas le sondage, c'est la tendance du sondage. Et aujourd'hui, la tendance, c'est que la mobilisation est de plus en plus populaire. En tout cas, la réforme l'est de moins en moins. Donc c'est ça qui est important.
Puis on parlera du cas particulier des femmes. Nathan Devers, agrégé de philosophie, qui veut intervenir dans le débat.
Une dimension qui est importante dans cette mobilisation, c'est qui devrait nous amener à nous questionner sur ce que c'est que la politique. Et tout à l'heure, quand vous disiez que vous défendiez pas vos intérêts personnels, ça allait en ce sens. Moi, ce qui me gêne le plus dans cette réforme, en dehors du contenu même de la réforme, c'est la manière dont elle est présentée, c'est-à-dire comme une nécessité due à un déficit qui va advenir selon la rationalité économique, et donc comme la nécessité d'une adaptation. Et en fait, quand on réfléchit, le grand slogan de la Macronie, et d'ailleurs peut-être des gouvernements précédents, ça pourrait être « adaptons-nous ». Adaptons-nous aux circonstances, adaptons-nous à ce qui arrive, adaptons-nous au rapport qu'on nous remet. En plus, leur lecture est équivoque parce que le rapport du Conseil d'orientation des retraites ne signifie pas nécessairement cela, mais même à supposer qu'il y ait des experts qui disent « il faut absolument faire cette réforme ». Eh bien, là, on a un politique qui pourrait être en fait une intelligence artificielle ou un algorithme et qui dit « je fais ce que je dois faire », comme s'il n'y avait plus de liberté. Et cette injonction à s'adapter qui a été analysée par Barbara Stiegler, c'est le contraire de la politique. La politique, c'est une affaire de liberté, c'est une affaire de choix, c'est une affaire de projet. Et quand vous voyez que Emmanuel Macron a été réélu et que son grand projet pour la France, c'est cette réforme qui n'est pas très... D'abord, qui est une régression sociale, et puis qui n'est... Je veux dire, il faudrait qu'il y ait une vision politique, il faudrait qu'il y ait autre chose que uniquement estimer que la charge d'un homme politique, c'est d'écouter les experts et de faire ce que disent les experts. Sinon, ça sert à rien, encore une fois, d'être homme politique. On peut demander à des logiciels de s'en charger à notre place, ce serait très bien.
Bon, Eric Revel, on a un autre usager.
Oui, bah,
soutient
sauf que s'adapter précisément
la contestation.
À des contextes économiques ou à des situations financières, c'est le propre de quelqu'un qui fait de la politique. C'est ça, l'adaptation. S'il n'y a pas d'adaptabilité d'une politique économique ou d'une politique financière, bah, vous avez des chances aussi d'aller dans le mur. Où je partage le point avec Nathan Levert quand même, c'est que je trouve que cette réforme, elle est extrêmement comptable et absolument pas dans l'analyse, encore une fois, de la société dans laquelle on veut aller, dans laquelle on veut travailler, quel est aujourd'hui le sens du travail. Tout ça, ça n'a pas été abordé. Alors, je dis pas que c'était le paquet cadeau qui permettait de faire passer la réforme, mais c'était, à mon sens, un préalable. C'est-à-dire, on voit bien que chez les jeunes aujourd'hui, le sens du travail a changé. On mesure à peu près à poids équivalent dans les sondages le fait pour quelqu'un de 25 ou 30 ans de vouloir circonvenir à son bonheur ou de faire carrière professionnelle. Dans d'autres générations à laquelle j'appartiens, on avait envie de faire carrière professionnelle. On voit bien qu'aujourd'hui, le sens du travail a changé. On voit bien que la société a changé. On voit bien que les métiers de demain sont changés. Et ce qui me frappe, et j'arrête juste, ce qui me frappe, c'est que la gauche a longtemps porté un magistère politique. Et elle l'a perdu en partie. Mais en réalité, la droite et les libéraux avaient gagné le magistère économique. C'était Frédéric Hayek, c'était Milton Friedman. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'avec la fin de la mondialisation heureuse, qu'on nous avait vendue heureuse avec le modèle chinois révélé par la crise Covid, en fait, le magistère est en train de passer d'un libéralisme assumé à la Hayek ou à la Milton Friedman à quelque chose de beaucoup plus équilibré dans la tête des gens et des gens qui font de la politique, me semble-t-il.
Un sujet qui est d'actualité, Fabien Villedieu, en ce moment, la gare de l'Est. Vous savez, le trafic est très fortement perturbé en raison d'un incendie sur des câbles. À l'instant, la SNCF dénonce un acte de sabotage. Un acte de sabotage, ça implique que ce soit quelqu'un de l'entreprise qui ait perpétré ce type de dégradation sur des câbles où, on le disait, il faut connaître l'endroit. Louis Dragnel, c'est ce que vous nous disiez. Qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de dire la SNCF sur ce sabotage ?
Un acte de sabotage, ça ne veut pas forcément dire un cheminot.
Quelqu'un qui connaît le système, en tout cas.
Je pense qu'il y a un peu de sous-entendu. Pas de votre part, d'ailleurs.
Non, pas de ma part, parce que moi, je voulais juste l'agence France Presse.
Voilà, des actes de sabotage, il y en a régulièrement. Moi-même, je suis conducteur de train, j'ai pris des parpaings sur le pare-brise, balancé d'un pont. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Après, il y a une enquête. Voilà, on verra ce que donnera l'enquête. Moi, j'espère juste que certains n'en tireront pas des conclusions trop vite sur un acte de sabotage qui serait fait par des cheminots.
C'est la petite musique que vous entendez, là ?
J'entends un peu. Alors, personne ne l'assume vraiment, mais il y a vachement de sous-entendus. On tourne autour du pot. Non, moi, ce n'est pas inimaginable qu'un collègue cheminot, syndicaliste... C'est inimaginable. Ouais. Je ne peux pas l'imaginer. Ouais, casser l'outil de travail, ce n'est pas notre tradition.
Vous le condamnez très fermement, vous.
Mais oui, je condamne sans aucune... Mais de toute façon, je n'irais même pas imaginer que ça puisse être un collègue. Voilà. Après, il y aura une enquête et on verra ce que dira l'enquête. Mais de toute façon, ce type d'action, ce n'est pas du tout dans notre tradition. C'est pas... Voilà, c'est se tirer une balle dans le pied, en vrai.
Oui, mais quel intérêt ? Bloquer le trafic pendant encore jusqu'à demain.
Moi, je
trouve
justement que l'outil de travail est de plus en plus dégradé, faute d'investissement, faute de... dans le matériel, dans le réseau, pour me dire que c'est aberrant que des gens puissent le dégrader
encore
plus.
Pourquoi il faut autant de temps pour que le trafic revienne à la normale ? Expliquez-nous pourquoi. Ce sont les flux de train, c'est...
J'ai pu comprendre que c'était des câbles un peu stratégiques, voilà, tout ça, et beaucoup il y a de l'électrique là-dedans. Et donc tout ça ne se change pas en claquant des doigts, mais moi ce que j'aime bien dans la SNCF, c'est que c'est de la technique. Voilà. Et la technique, des fois, c'est un principe de réalité, c'est un peu comme l'énergie. Tout le monde dit l'énergie, quand il n'y a plus de pétrole, quand les centrales elles sont en difficulté, t'as des difficultés de lumière, voilà. Ça nous remet un peu les pieds sur terre, voilà. Et les pieds sur terre, la technique, ça s'entretient, il faut du personnel, il faut, voilà.
On peut faire la comparaison, Nicolas Meillant, avec ce qui se passe dans les centrales, peut-être.
Moi, non, mais ça me rappelle, il y a eu un incident à la gare Montparnasse qui avait fait beaucoup plus de problèmes. Il y avait tout un transformateur qui avait sauté. Oui, je pense que les gens parfois oublient. Moi, il y a un truc qui m'avait fait beaucoup de bien il y a 2 ans, c'est que j'avais une panne de courant chez moi pendant 3 jours. J'étais revenu à l'âge de pierre, ça m'avait fait du bien. Et maintenant, je profite chaque fois que j'ai l'électricité chez moi.
D'accord, mais c'est bien, il faut en
profiter. Tant que j'en ai.
Louis Dragnel, un tout petit point sur l'enquête. Vous nous disiez, voilà, c'est une trappe, il fallait accéder à une trappe avec une clé, c'est ça?
De ce qu'on sait, en tout cas, c'est qu'il n'y a que des personnes qui savaient y accéder, qui sont parvenues à rentrer dans cet endroit, qui était doublement protégé, un portail d'accès, puis une trappe. Et effectivement, il n'y a aucune trace d'effraction qui a été constatée pour le moment. Là où je rejoins ce que vous disiez, ça peut être quelqu'un de la SNCF, mais ça peut aussi être une société de nettoyage, un sous-traitant, quelqu'un qui peut avoir accès à cet endroit-là. Mais en tout cas, la personne qui a fait ça savait manifestement l'impact qu'allait provoquer cet incendie.
Bon, écoutez, l'enquête évidemment est en cours et on espère savoir ce qui s'est passé, cet incendie, donc qui impacte complètement le trafic de la gare de l'Est. Allez, il est pratiquement 18h30, on va faire le rappel des grands titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
Le Sénat a adopté en première lecture un projet de loi favorisant la construction de nouveaux réacteurs nucléaires. Un projet de loi avec des dispositions controversées comme la suppression du plafonnement à 50% de la part du nucléaire dans le mix électrique d'ici 2035. Le texte sera ensuite examiné en mars par l'Assemblée nationale. La colère de Bruno Le Maire contre la CGT. À Marseille, la CGT Énergie menace de manipuler des compteurs électriques pour faire baisser les factures de certains clients, notamment les boulangers. Ce n'est pas la CGT qui décide en France. Ce n'est pas à la CGT de faire la loi, mais aux parlementaires, a martelé le ministre de l'Économie sur Europe 1 ce matin. Et puis un bus coupé en deux lors d'un accident avec un train à Sevin en Savoie. Les faits se sont produits ce matin à proximité de la gare. Un bus qui ne transportait pas de passagers s'est retrouvé pour une raison encore indéterminée arrêté sur le passage à niveau. Il a alors été coupé en deux par un train de voyageurs. Le bilan est d'un blessé grave, trois légers.
Voilà, 18h30, on fait une toute petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On continue à parler de cette contestation contre la réforme des retraites. On parlera aussi d'énergie. Comment est-ce que la CGT Énergie promet de réduire la facture des boulangers. Allez, à tout de suite dans Punchline. 18h35, on est en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On revient un instant sur ce qui s'est passé Gare de l'Est avec cet acte de sabotage selon la SNCF. On va écouter le numéro 2 de SNCF Réseau qui parle donc d'un acte de sabotage.
C'est un acte de sabotage sur des câbles qui sont des câbles de signalisation qui comportent des circuits de sécurité. Il y avait une cinquantaine de câbles qui ont été détériorés, qui ont été mis à feu. Et ensuite, 600 circuits environ de sécurité, donc il faut les reprendre un par un, les vérifier, les réparer. On ne fait aucune concession avec la sécurité.
Voilà, aucune concession avec la sécurité, mais le mot sabotage a été lâché, Fabien Villedieu. Est-ce qu'il vise spécifiquement les cheminots ou quelqu'un qui travaillerait à la SNCF, selon vous ?
Bah, j'espère pas, voilà, il y a une enquête, l'enquête on verra ce qu'elle donnera, mais c'est sûr que ça laisse le doute, voilà. Mais ça, c'est pas du tout la tradition du mouvement syndical, c'est pas du tout la tradition des cheminots. Le sabotage, c'est pas notre truc. Voilà, nous, notre truc, c'est l'action collective éclairée dans la discussion. C'est pas la nuit cachée à brûler tel ou voilà. Ça, c'est pas du tout notre tradition. Après, encore une fois, attention aux conclusions. Parce que j'entends la petite musique, là, sabotage, il y a une mobilisation, il y a les retraites et tout. Enfin, on peut facilement faire le lien. Il y a une enquête, on verra ce que donnera l'enquête. Mais je ne peux pas croire qu'un collègue ait fait ça.
D'accord. Éric Chevet nous a rejoint, vice-président de la CPME. Bonsoir.
Bonsoir.
Fabien Villedieu nous a annoncé tout à l'heure qu'avec la CGT Cheminots, il y avait des appels à une grève reconductible à partir des 7 et 8 février. Quel impact ça aura sur vos entreprises ?
Ouais, vous savez, dès qu'il y a des grèves, ça a un impact sur l'économie en général et donc sur nos entreprises, évidemment. Et donc, nous suivons tout ça avec beaucoup d'attention. Évidemment, le droit de grève est fondamentalement inscrit dans la Constitution, donc très bien. Droit de manifester, pas de bloquer, en revanche. Et donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est que, il y a la liberté de circuler, de commercer et de pouvoir entreprendre soit toujours maintenue dans ce pays. Donc, c'est un petit peu la limite que l'on met à tout ce qui se passe en ce moment, c'est de ne laisser ceux qui veulent travailler dans de bonnes conditions.
Ça ne sera pas le cas, a priori. Hein. Adressez-vous à M. Villedieu, il est en face de vous. Hein.
Oui, je vois ça, oui, mais je lui redis effectivement
là,
que
c'est le blocage à la clé.
Comment ?
C'est un blocage qui va nous, évidemment, impacter fortement l'activité économique.
Alors, heureusement, aujourd'hui, on a progressé beaucoup sur un certain nombre de méthodes, y compris le télétravail, qui permettent aussi de travailler à distance. Mais ce n'est pas le cas, évidemment, de deux tiers des salariés. Et donc, ceux-là, effectivement, sont impactés directement. Ceux qui veulent travailler qui sont directement impactés. Et ça nous gêne, effectivement, pour l'activité dans nos TPE, dans nos PME. C'est parfois pas facile, c'est compliqué en ce moment. Et donc, franchement... On respecte évidemment la liberté de grève et de manifester, mais on souhaite vraiment que cette liberté d'entreprendre et de se déplacer soit aussi respectée.
Monsieur Villieu, qu'est-ce que vous répondez à ce chef d'entreprise ?
Je suis en partie d'accord. Franchement, ils nous font une crise. On a une crise de l'inflation, on ne sait pas comment remplir notre frigo. On a une crise énergétique où on se pose des questions sur les factures qu'on va payer et pourquoi ils nous rajoutent ça, ce qui finalement fait un peu de la discorde, alors que ça se trouve, on pourrait s'entendre très bien, mais là, voilà, vous défendez, et je peux le comprendre, et nous, on défend le droit de grève. Mais pourquoi le gouvernement nous impose ça à tout le monde, quoi ? Voilà, pourquoi, c'est quoi l'urgence qu'il y a aujourd'hui ? Alors que du mot même du président du Conseil des retraites explique qu'il n'y a pas une envolée des dépenses, il y a effectivement un problème de ressources, mais des ressources, on peut en trouver. Pourquoi le gouvernement impose ça à tout le monde, aux patrons d'entreprise, aux cheminots, aux grévistes, à vous, voilà. Pourquoi il nous impose tout ça ?
Voilà. Nicolas Mélian, le secteur de l'énergie peut être impacté aussi. La CGT Énergie Marseille a décidé de réduire la facture des boulangers. Alors ça, c'est plutôt une initiative qui va rencontrer un succès populaire. Passage en heure creuse forcée, suppression du comptage de la consommation, rétablissement de tous ceux qui sont coupés malgré la trêve hivernale et couper en revanche le courant à des milliardaires ou des personnes riches. Expliquez-nous comment on fait tout ça.
Honnêtement, je ne sais pas si je vais pouvoir vous répondre. Mais par contre, je trouve qu'on est vraiment dans un pays de Shadok parce qu'il y a vraiment une solution qui est simple. À un moment donné, on a une électricité en France, 90%, son coût c'est 50 euros. Du mégawattheure, on
n'a pas
envie de la payer
ça.
100, 280 ou 400 ou 500 euros, donc on peut juste décider. Mais le problème, c'est qu'effectivement, M. Emmanuel Macron et son gouvernement, pendant qu'il travaille sur les retraites, il ne travaille pas sur comment est-ce qu'on fait baisser le prix de l'énergie, comment on fait baisser
si,
le prix...
Ah si, il était vendredi en Espagne, justement,
oui,
au moment de la grève.
Quoi en Espagne, c'est justement pas l'endroit où c'est ainsi, c'est quelque chose, même si c'est souvent pris en exemple, ça n'est malheureusement pas la solution. La solution, c'est que la France retrouve et paye le prix de l'électricité qui est son coût, qui est notre électricité nucléaire. Et donc ça, ça aurait pu être fait dimanche dernier avec les Allemands, là, Conseil des ministres franco-allemands. Mm-hmm. Et qu'est-ce qu'ils nous ont sorti ? Ah oui, on va réfléchir à un grand plan d'hydrogène vert. Pourquoi ? Pour 2050. Mm-hmm. Mais là, le problème, c'est pas 2050.
C'est trop tard
tout
pour les entreprises. Oui.
C'est maintenant. Mm-hmm. Regardez Frédéric Roy qui parlait de tous ces boulangers qui ferment chaque jour. C'est pas dans 6 mois, c'est pas dans 1 an. Mmh. Ça se passe sous nos yeux. On attend quoi pour résoudre ce drame ? Moi, je suis un peu d'accord avec Fabien Villedieu. C'est quoi l'urgence du timing de cette réforme ? Est-ce qu'elle est vraiment imposée simplement par la Commission européenne ? Est-ce que c'est juste pour faire plaisir à Mme von der Leyen ? C'est juste pour revenir dans les 3% ? Ou il y a une autre raison ? La priorité, l'urgence absolue, c'est l'énergie, parce qu'on n'a pas encore tout vu. On a atteint lundi un prix maximum sur le coût de l'énergie. Les prix de gros augmentent. Hein. Donc, vous, quand vous payez l'électricité, vous payez beaucoup de taxes. Hein, le pétrole, il y a 60% de taxes. Mmh. Mais derrière, ça s'assoit sur quelque chose. C'est le prix de gros. Et là, les prix explosent parce qu'on a des contraintes sur les raffineries. Parce qu'en Europe, on a fermé beaucoup de raffineries. Et en plus, on a décidé de se passer des raffineries russes dans quelques mois. Donc, l'urgence absolue, elle est là. Et on est au début du problème. Et ça va encore créer une seconde vague d'inflation sur la seconde partie de l'année. Puisque l'inflation, c'est quoi ? C'est de l'énergie, c'est du gaz et du pétrole. Et pour l'instant, on ne traite pas les problèmes.
Fabien Villedieu, vous êtes d'accord ?
Je suis complètement d'accord. Et par ailleurs, c'est aussi le bilan d'un échec d'une politique hein, sous l'ouverture à la concurrence de l'énergie. Hein. Enfin, il y a un moment donné, on nous a dit « Oui, la loi du marché, vous allez voir, ça va baisser, ça va monter, ça sera la concurrence. Ouais. » Bon, moi, j'ai appris il n'y a pas longtemps que les concurrents d'EDF, GDF, ils faisaient 5% de production d'énergie. Je dis « Bah alors, ils servent à quoi ? Ils servent à revendre l'énergie produite par EDF et GDF. » Enfin, c'est des parasites, ces gens-là. S'ils ne sont pas capables de produire de l'énergie. Parce que du coup, à la première crise énergétique, bah, tout le monde se retourne vers EDF qui est en difficulté. Pourquoi ? Parce qu'EDF, on lui demande de se préparer à l'ouverture à la concurrence. Donc qu'est-ce qu'elle fait EDF ? Elle fait comme à la SNCF, elle baisse ses coûts, elle supprime des postes. Et par contre, que fait le gouvernement ? Génial, il ferme le régime spécial des collègues de l'énergie, ce qui sûrement va rendre... C'est ça la priorité ? Faire que peut-être que demain...
Attends,
faire peut-être que demain EDF,
EDF, GDF se retrouvent dans la même situation que l'SNCF, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas, parce qu'on n'est pas assez attractif, à embaucher, et que du coup tu galères, parce que là où avant tu avais des techniciens, parce qu'effectivement c'était des grandes entreprises, c'était attrayant, tu ne l'es pas, et se mettent en difficulté.
Éric Chevet, patron de la CGPME.
Effectivement, il y a beaucoup d'incompréhension sur le fonctionnement du marché de l'électricité, du gaz et de l'électricité en Europe. Ça, c'est clair. Les chefs d'entreprise, ils comprennent pas ce qui se passe aujourd'hui sur les marchés. Et d'ailleurs, ce marché, en fait, n'est pas libre. C'est ça le problème. C'est qu'il est organisé et mal organisé par les États et par la Commission européenne. C'est là-dessus qu'il faudrait revenir, mais visiblement, ça coince, invisible, d'après ce qu'on comprend, à cause de l'Allemagne sur ce sujet particulier. La conséquence, c'est que nous, effectivement, dans les entreprises qui sont pas protégées par le bouclier tarifaire, et dans les grandes qui sont protégées par Bercy, parce qu'elles ont négocié à Bercy, eh bien, il y a un trou dans la raquette, là, pour les PME, qui se trouvent exposées à un marché complètement erratique, dont ils comprennent pas la formation des prix, comprennent pas les règles de concurrence qui, visiblement, sont orientées, et donc ça n'est pas possible. Et encore une fois, c'est parce que le marché fonctionne mal. Parce que le marché fonctionne mal, parce qu'il est manipulé par les États et la Commission européenne, dans son fonctionnement général. C'est pas normal. Nous réclamons qu'un marché, l'État doit être le garant du fonctionnement normal du marché. C'est ce que nous prenons, nous, une économie libre de marché.
Nicolas Meillon, le prix du gaz baisse pourtant en ce moment. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'impact sur le reste de l'énergie ?
Bah, si, ça a un impact sur le.
Mais pas tout de suite.
Le prix de l'électricité, mais vous savez, j'ai regardé, il y a une.
Puisque les deux sont corrélés, on rappelle.
Alors, ils sont corrélés théoriquement. Mm-hmm. C'est-à-dire que le marché de l'électricité de gros est fixé sur la centrale marginale, qui est une centrale, le dernier kilowattheure, qui est un kilowattheure à gaz. Et comme c'est un rendement de 50%, c'est un peu technique, mais donc on multiplie par deux le prix, et donc 60€ le gaz, 120€ l'électricité. Mais quand on regarde le prix de l'électricité en France l'an dernier, on ne payait même pas. Le prix du gaz, on payait 3 fois plus cher. Pourquoi ? Parce qu'il y avait juste de la spéculation. Puisque comme on a décidé du jour au lendemain de fermer 10 réacteurs, à cause de ce problème de corrosion sous contrainte, qui justifiait peut-être de les fermer les uns après les autres, de les réparer. Non, on a fermé les 10 en même temps. Et comme on a un marché spéculatif, les gens se sont dit « Ah ben les Français, ils n'auront pas l'électricité. » Et donc on a payé l'électricité 3 fois plus cher que les Allemands. Mais comment ça se fait ? Et c'est là où on a un problème. Donc oui, il y a des infrastructures où le marché ne fonctionne pas. Ça s'appelle le rail, ça s'appelle l'énergie, l'électricité. Parce que, dont acte ? Eh bien, on revient en arrière. Ça marchait très bien avant, quand on avait notre prix national et qu'on s'échangeait 20% de la consommation sur les marchés. Et celui-là, on peut le fixer sur le coût du gaz si ça leur fait plaisir. Mais on revient à 80% à 50€ du mégawatt-heure. Et tout de suite, on n'attend pas 2 mois, la fin de l'année ou dans 10 ans. Tout de suite.
Éric Revel, on a l'impression que le gouvernement ne met pas les choses dans l'ordre, dans le bon ordre en réalité, parce que la crise de l'énergie, elle est majeure pour les foyers français. Oui, et va se rajouter maintenant l'impact de la réforme des retraites.
Ça se rajoute. Alors, je partage un point avec M. Villedieu. Hein, on va être d'accord au moins sur une.
C'est exceptionnel.
Non. C'est que vous avez raison. On avait expliqué que l'ouverture du marché européen de l'énergie, ce serait extrêmement bon pour le consommateur. Et on s'aperçoit que c'est pas du tout le cas, puisqu'en réalité, on assiste à ce qu'on assiste. Mais je voudrais vous poser.
Bon, ça a été très bon pour les traders, par contre.
Voilà, pour les traders. Mais je voudrais poser une question, monsieur Villedieu. On sait que la CGT est pour le nucléaire. Et qu'elle regarde d'un très mauvais œil ce qui se passe, notamment à gauche. Est-ce que Sudrail est pour le développement du nucléaire ou pas?
Nous,
exprimez-vous.
Je crois qu'on a un congrès où on s'était positionné contre, mais au-delà.
C'est ça, hein.
Au-delà du débat sur le nucléaire. Qui est un vrai difficulté,
un vrai sujet.
L'alternative au nucléaire. Mais il n'y a même pas d'alternative au nucléaire aujourd'hui. Parce qu'on pourrait imaginer qu'on ait investi énormément sur des panneaux photovoltaïques, sur des éoliennes, ou sur des alternatives. Mais sauf que ça demande des investissements qui sont très lourds, voilà, et qui ne sont pas rentables à court terme. Eh ben ça,
donc
cette politique-là.
Contre, mais vous êtes plutôt pour le nucléaire.
Non, moi je suis contre. Je vous le dis, je suis contre le nucléaire. Voilà.
D'accord.
Et le débat, il est même pas là. Parce
ah, si, c'est important.
Le débat, il est pas là. Parce que s'il y avait effectivement des investissements pour qu'il y ait une alternative au nucléaire, ça pourrait être intéressant. Effectivement. Sauf que là, on n'a pas d'investissements qui sont faits pour l'alternative. Donc du coup, la seule alternative, c'est le nucléaire.
Il n'y a pas d'investissement le nucléaire non plus. Hein. Pendant 5 ans, il n'y en a pas eu. Hein.
Mais les investissements
et puis,
il faut
du vent pour les éoliennes et du soleil.
C'est des investissements nulle part.
Mais du coup,
par contre, là où il y a un vrai parallèle, c'est qu'effectivement, les industries de réseau
C'est compliqué l'ouverture à la concurrence. C'est très compliqué les industries de réseau. Parce qu'effectivement, on se rend compte qu'ils ne sont pas nombreux à se battre pour investir dans le réseau. On regarde l'eau. C'est une catastrophe, l'eau. Hein. Enfin, vous, je ne sais pas si les gens sont au courant, mais il y a 40% de l'eau qui part parce qu'il y a des fuites partout. Parce que le réseau n'est pas entretenu. Surtout à Paris, le réseau ferroviaire, s'il n'est pas entretenu, enfin, ça se bouscule pas au portillon pour l'entretenir. Voilà, ça coûte des milliards, c'est très très cher, c'est des investissements sur 20, sur 30 ans, sur 40 ans. Les lignes TGV, c'est des investissements de dingue. Voilà. Donc sur les histoires de réseau, enfin, la démonstration, c'est plutôt c'est que le monopole marche mieux que le
réseau.
Non, c'est vrai que sur les réseaux, c'est plus compliqué. Non, je voulais simplement faire la remarque que sur les énergies alternatives, il y a un problème quand même majeur aujourd'hui en France, c'est celui de l'acceptabilité sociale des populations sur justement ces nouveaux types de production d'énergie, que ce soit les éoliennes, les méthaniseurs, que ce soit personne n'en veut.
C'est les habitants des villes qui en veulent pour ceux qui habitent à la campagne.
Exactement. Et donc ça, c'est aujourd'hui le vrai problème auquel on est confronté. Et de toute façon, on n'aura pas le choix que de continuer dès lors d'avoir une production décarbonée par le nucléaire, parce qu'on n'arrive pas à créer des énergies alternatives en masse.
Et Nicolas Meillant, les énergies renouvelables en hiver, ça marche moins bien, on est d'accord?
Le soleil et la nuit, ça marche moins bien, oui. Et le vent, écoutez, ça dépend. Là, récemment, il a fait froid et on avait quand même du vent, donc ça a pu un petit peu contribuer. Mais le problème, c'est qu'on doit toujours prévoir le cas où il n'y en a pas. Mmh. Et donc, dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'on doit toujours doubler. Donc, on peut avoir beaucoup d'éoliennes et des panneaux solaires qui couvrent 100% de la consommation. Mais on devra garder 100% des centrales, donc payer des gens à rien faire, très bien, pour le jour où on a un problème. C'est ça le souci.
Et donc là, on n'est pas prêt de voir nos factures d'électricité et de gaz baisser. Hein, on est d'accord.
Si le gouvernement se réveille et décide qu'on va payer le prix de l'électricité qu'on produit en France et pas 5 fois plus cher, ça va baisser.
Eric Chauvet, vous disiez que c'est un véritable drame pour certaines entreprises.
Ben oui, enfin, c'est-à-dire que
les boulangers, les artisans.
On comprend bien qu'on n'est plus dans le quoi qu'il en coûte. Ça, on a évidemment intégré ça, mais il en reste pas moins que ce sont des gens qui n'ont pas fait de faute de gestion, qui ont correctement géré leur affaire et qui sont confrontés à un phénomène qu'ils ne maîtrisent pas, sur lequel ils n'ont aucune prise. Donc évidemment, alors il y a bien des numéros verts qui se mettent en place là en préfecture, et il faut d'ailleurs en faire la publicité, parce que visiblement il y a peu de nos confrères qui appellent, mais il y a encore des difficultés majeures dans les activités électro-intensives. Oui.
Monsieur Villedieu, Eric Revel, je vous voyais opiner du chef. Peut-être pour autre chose.
Mais j'écoute avec beaucoup d'intention ce que vous disiez, mais.
Vous étiez en train de noter sur votre téléphone.
C'est pas ça. C'est que j'ai en tête quand même ce que voulait François Hollande, le fameux mix énergétique là. Vous savez, les 50% de nucléaire et les 50% d'énergie renouvelable. Avec cette crise-là, on a bien vu, et j'entends évidemment la difficulté peut-être de Monsieur Villedieu à se positionner sur le nucléaire. On voit bien qu'on a besoin du nucléaire en France. Mais par exemple, ce qu'avait décidé François Hollande, la fermeture des 14 réacteurs, cette fameuse loi, elle n'est toujours pas abrogée. Elle n'est pas abrogée. C'est-à-dire qu'on est... dans quelques jours. Bah, vous avez une info, parce que là, on part pour les fermer, pour en former 14 de plus à l'horizon 2035.
Moi, j'ai une proposition pour Emmanuel Macron, parce que je suis pas son conseiller, mais au lieu de tout miser sur la réforme des retraites, il pourrait plutôt essayer de s'inspirer du général de Gaulle, de Messmer, et tout miser sur un grand plan énergétique pour que la France redevienne un pays. C'était notre principal avantage, une énergie abondante, bon marché. En plus, décarbonée, on ne l'avait pas fait pour ça au départ.
Et en plus, on part à 60 ans.
Le politique se pose pas la question.
C'est pas l'un ou l'autre, mais là, c'est sans énergie.
Il peut faire aussi d'autres choses.
Non, parce que la priorité, c'est l'énergie.
Pour l'autonomie, ça n'annule pas ou ça ne rend pas plus faible un plan stratégique. Le problème que vous soulevez, c'est qu'il n'y a pas d'intention. Le problème que vous soulevez, c'est qu'il n'y a pas d'intention profonde de faire ce que vous dites.
Si on ne traite pas le problème de l'énergie tout de suite, le pays s'écroule.
Voilà. Non mais je suis d'accord. Mais
on ne parlera plus des retraites. Non mais plus on est pas de réforme.
Je suis d'accord avec vous. Mais on peut traiter les deux sujets en même temps, je pense.
Non, il faut traiter les priorités. La priorité, c'est l'énergie. Désolé.
Mais quand vous dites ça s'écroule là, maintenant, dans les prochaines semaines.
Il n'y a pas d'économie sans énergie, donc oui, ça va aller très vite. Mm-hmm. Mais regardez ce qui se passe dans les PME, les TPE, personne ne l'invente. Mm-hmm. Ça se passe dans les villages, c'est un problème auquel
on est confronté, ça c'est vrai. Mm-hmm. Il faut résoudre effectivement ce problème. Bon, il y a des choses qui sont mises sur la table. Mais je ne pense pas pour autant qu'il faille faire l'impasse sur une réforme des retraites. Ah. Ouais, c'est très clair, c'est la position de la CPME.
Monsieur Villedieu ne va pas être d'accord avec vous.
Non, mais c'est juste une anecdote, c'est qu'il s'avère que nous, on est un gros syndicat Sudrail à Gare de Lyon et qu'on gère le CE, voilà, et on gère les cantines Voilà, et du coup, on paye les, c'est nous qui payons, alors pas le Sudrail, mais le CE qui paye les factures des cantines. Et la facture d'électricité, elle était au mois de janvier 2022 de 2000 euros. Et on est passé à une facture de 40 000 euros au mois de novembre. Voilà, 40 000. On passe de 2 000 euros à 40 000 euros. Donc du coup, on s'est projeté un peu dans les boulangers, tout ça. Et c'est vrai que le vrai problème, en fait, c'est ça, quoi. Le reste, et qu'est-ce qu'ils ont besoin de rajouter?
Vous venez chez l'entreprise. On gère le CE.
Dans 6 mois, dans un an, quand on aura réglé ce problème. Et on parle des retraites, on parle du travail, de la place du travail dans notre vie, etc. Très bien.
Et je voulais juste vous montrer un reportage qui a été fait à Marseille sur des habitants qui ont manifesté pour protester contre la hausse, justement, de leur charge de chauffage. Elle a été multipliée par 3, leur facture. Regardez, écoutez surtout ce reportage de leurs paras et on en débat très vite ensuite.
Rassemblés au pied du siège de Habitat Marseille-Provence, les locataires de ce bailleur qui gère de nombreuses cités marseillaises ne décolèrent pas. Par un simple courrier, ils ont découvert que leur facture de chauffage doublait, voire triplait en 2023.
De 62 euros, on arrive à 190 euros.
Pour la plupart de ses habitants, chaque centime compte.
À partir du 10 du mois, nous sommes à découvert. Vous imaginez un peu, qu'est-ce qui va se passer? On va se retrouver à la rue?
Et l'explication du bailleur, la flambée des prix de l'énergie, ne les convainc pas. Et
nous, on n'a rien à voir avec la guerre, tout ce qui se passe. Hein. Nous, on paye les loyers, les charges, les impôts.
Une envolée des prix du chauffage alors que dans leurs appartements, ils ont froid. Comme chez Alain et Josiane, un couple de retraités rencontrés dans la manifestation. Nous sommes chez eux, il est midi, le thermomètre affiche 18 degrés.
Autrement, le matin, il fait 15, 16.
Ils refusent de payer les 123 euros d'augmentation par mois.
Je vais payer le même montant que je paye jusqu'à maintenant tous les mois.
Ils décident de prendre le risque comme de nombreux locataires en espérant que le bailleur revoie ses tarifs à la baisse.
Nicolas Meillant, quelle est la solution? Il n'y en a pas. Ils sont pris en otage, là, encore une fois, les habitants.
Oui, mais c'est... Vous savez, Laurence, moi, ça fait plus d'un an que j'alerte là-dessus. C'était avant l'invasion de l'Ukraine. Et j'ai l'impression que le gouvernement n'a toujours pas compris le problème. Donc, je trouve ça désespérant. Pourtant, c'est simple. C'est clair. Il l'a sous les yeux. Donc, je ne comprends pas.
Ouais. Louis Dragnel, un mot de conclusion. Avec toutes ces colères qui peuvent s'agréger, hein, la colère contre les retraites, la hausse des prix de l'énergie, il y a un parfum de poudre dans l'air.
On voit le mécontentement et même des gens qui spontanément devaient être favorables à la réforme des retraites tombent dans le camp de ceux qui sont contre ou qui disent mais il faut attendre, mais c'est pas le moment, c'est pas l'urgence du moment. Donc ça montre à quel point effectivement on a une société aussi qui se pose plein de questions, qui remet en question le travail, qui remet en question l'âge de départ à la retraite, qui remet en question à peu près tout. Et donc on avance quand même vers des temps assez incertains.
Voilà. Des temps de mobilisation en tout
et
cas
de mobilisation certaine, mais d'incertitude quand même quant à l'avenir, l'inflation, l'énergie. L'âge de départ à la retraite.
Eh bien, merci à tous les cinq, Monsieur Chevet, Nicolas Meillant, Éric Revel, Fabien Villedieu et Louis de Ragnel. Merci à vous, chers amis téléspectateurs et auditeurs, pour votre confiance. On se retrouve demain dans Punchline sur CNews. Tout de suite, c'est Christine Kelly et ses invités pour Face à l'info. Et sur Europe, c'est Europe Soir avec Raphaël Devolvé et Hélène Zélani. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes.